Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
Salut à tous, il est 17h04 sur RMC. C'est parti pour votre rendez-vous foot de l'après-midi jusqu'à 19h avant de laisser la main à Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet pour Bartoli Time avec Florent Manaudou. Rien que ça, on invitait votre duo du dimanche après-midi, Roland Courbis et Marion Hédalo. Salut à tous les deux.
Salut les amis.
On va évidemment revenir sur la piètre prestation de l'équipe de France hier soir, défaite 2-0 face à l'Allemagne en match amical. Heureusement, à 3 mois du début de l'Euro, est-ce qu'on doit être inquiet ou pas? On vous attend d'ailleurs au 32-16 pour venir participer avec nous. On parlera aussi des autres favoris à la victoire finale en difficulté en ce moment, comme l'Angleterre ou encore la Belgique. Arthur Théâtre, l'international belge du Stade Rennais, sera d'ailleurs notre invité, tout comme Olivier Dalloglio, l'entraîneur de la AS Saint-Étienne, bien parti pour retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Avant de démarrer et d'accueillir Arthur Perrault pour nous parler de l'équipe de France, c'est le retour du coffre RMC et nous vous offrons jusqu'à 50 000 euros. Et dès que vous entendez ce signal, eh bien, vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 7-32-16 le vendredi 29 mars. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Et si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2 500 euros. Mais vous pouvez aussi remettre en jeu cette somme en ouvrant le coffre RMC. Vous envoyez coffre au 7-32-16 dès que vous entendez l'alerte. Ce sera évidemment à n'importe quel moment de l'émission, donc soyez bien attentif. Il est parfois difficile de parler de l'équipe de France, mais on va le faire. Et on va parler aussi des championnats de France de tennis de table, avec évidemment les deux hommes que tout le monde suit en ce moment en vue des Jeux Olympiques l'été prochain à Paris, les deux frères Lebrun, Alexis et Félix, qui se retrouvent face à face dans ces championnats de France. Et donc on va suivre avec Julien Landry la finale. C'est dans quelques secondes maintenant avec toi. Salut Julien.
Salut Flora, salut à tous. Oui, je vais donc baisser la voix parce que tout à l'heure, j'ai parlé un peu fort et on m'a repris en disant, ah, il fallait parler doucement pendant les points. Je
pensais que c'était moins feutré. Ça rigole pas, t'as vu l'ambiance derrière toi aussi.
Tu sais que quand je les regarde jouer, ça va tellement vite, ça me paraît tellement difficile que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que l'image elle est truquée ou quoi.
Elle est accélérée.
Moi, quand je jouais au ping-pong, j'étais content que la balle allait sur la table, toi.
Bon, raconte-moi un petit peu les enjeux autour de cette finale, au-delà de l'histoire évidemment entre les deux. Ils ont un petit peu de mal d'ailleurs à se hisser en finale les deux.
Ouais, ça a été très compliqué les deux en demi-finale, qui se sont imposés 4-3 tous les deux dans deux matchs épiques, avec notamment le match de Félix contre Simon Gauzy, qui est probablement le plus beau match depuis le début du week-end de championnat de France. Et là c'est parti avec les deux frangins au service, chacun leur tour, un partout entre Félix et Alexis. Mais évidemment il y a la suprématie, même si Félix n'a jamais réussi à battre son frère encore.
J'ai misé sur Lebrun.
Ouais, t'as bien fait, quoi. J'étais sûr de gagner. Mais Félix n'a jamais encore battu son frère Alexis en compétition officielle. C'était d'ailleurs la finale l'année dernière des championnats de France. Et c'était Alexis qui s'était imposé. Mais Félix a pris une nouvelle dimension depuis quelques mois, en atteignant notamment cette 5e place mondiale, en remportant des grands tournois majeurs, en battant notamment les Chinois. Donc on va voir s'il a réussi à prendre un petit ascendant psychologique. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une magnifique ambiance. 4000 personnes cet après-midi à Bougnoles pour suivre ce rendez-vous que tout le monde avait fixé, le rendez-vous des Lebrun qui se sont imposés hier lors de la finale du double et qui vont donc s'affronter là pour savoir qui va devenir champion de France, le troisième titre pour Alexis ou le premier pour Félix. Trois partout dans cette première manche entre Alexis et Félix Lebrun.
Alexis c'est le grand frère, hein, tu nous confirmes.
Exactement, Alexis c'est le grand frère et Félix le petit.
On reviendra te voir évidemment pour faire le point sur cette finale, on sent que ça va durer entre les deux frères. Il est parfois difficile mais néanmoins nécessaire de parler des choses qui fâchent, vous me voyez venir évidemment Marion coach, c'est cette défaite 2-0 de l'équipe de France hier face à l'Allemagne à Lyon. Heureusement ça n'était qu'un match amical mais ça fait tâche malgré tout, surtout vu la performance des Bleus. Arthur Perrault a suivi tout ça pour RMC hier soir. Il suit au plus près l'équipe de France et il est avec nous aujourd'hui. Salut Arthur.
Salut messieurs, dames. Bonjour à tous.
Salut Arthur.
On va revenir sur la performance des Bleus, mais on va essayer aussi de se projeter quand même un petit peu. On vous attend d'ailleurs au 32-16 pour venir participer avec nous. Arthur, toi qui les as croisés après le match, dans quel état étaient les Bleus après la rencontre? Est-ce qu'ils étaient lucides sur la performance réalisée hier soir?
Oui, très. Et même si les visages de Benjamin Pavard et d'Aurélien Tchouaméni en zone mixte face aux journalistes étaient plutôt fermés, il n'y a clairement pas d'inquiétude aujourd'hui dans le vestiaire de l'équipe de France. Ça s'est d'ailleurs très bien ressenti dans la foulée de cette rencontre, puisque selon plusieurs sources, voilà, les joueurs étaient plutôt émoussés, mais voilà, pas d'inquiétude. Même au lendemain de ce match, d'ailleurs, du côté des hommes de Didier Deschamps, le sélectionneur qui s'est montré très réaliste en conférence de presse en expliquant que c'était une accumulation de choses qui n'allaient pas. Plusieurs raisons avancées. La principale, depuis le début de ce rassemblement, l'heure est très clairement à la décompression pour les 23 joueurs qui sont réunis à Clairefontaine. Et par exemple, hier soir, sur les 11 titulaires, 7 joueurs sont encore en lice en Ligue des Champions avec leur club. Évidemment que les Bleus ont montré un manque d'envie inhabituel. Alors ça peut s'expliquer par la bonne ambiance et les victoires récentes, mais ça peut aussi s'expliquer par la multitude de pépins physiques depuis le début de la semaine. Ça n'a rien arrangé. Le staff de l'équipe de France a tout tenté pour soigner ses petits bobos, mais finalement personne n'a réussi à relancer la machine avant de tomber. Il faut le dire quand même, et je sais que Roland, ça te tient à cœur aujourd'hui, face à une très bonne équipe allemande qui avait décidé de rappeler des joueurs très expérimentés, placardisés ces derniers mois, dernières années. Je pense notamment à Toni Kroos au milieu de terrain. Et force est de constater que cette équipe allemande est métamorphosée et fait aujourd'hui partie des favorites pour le prochain Euro.
Absolument. Donc, tu sais ce que je pense de l'équipe de France. J'insiste, je ne vais pas devenir complètement maniaque, je le suis déjà un petit peu en tant que passionné de football, mais l'équipe de France d'hier, mais en aucun cas, il faut être inquiet. Cette équipe de France-là, si c'est ton équipe de France préférée, eh bien, tu n'as aucune chance ni de gagner la Coupe du Monde, ni de gagner l'Euro. Donc là-dessus, tu peux être tranquille. Et quand je vois, bon, on ne va pas jouer sur les mots, match amical, oui, ok, on a l'habitude de dire match amical, mais c'est surtout
un match
de préparation dans une période où ce match, il est arrivé rapidement dans cette coupure. Il y en a un autre qui arrive encore plus rapidement 3 jours après, dans une période où les joueurs, ils auraient plutôt besoin de repos qu'autre chose. Alors maintenant, il y a les Allemands qui sont en train d'essayer aussi plusieurs formules. Récupérer Kroos, oui. Et je trouve que c'est une très très bonne idée, même si en jouant tous les 3 jours il ne pourra pas jouer les 95 minutes de tous les matchs,
mais
simplement donc ce joueur-là, c'est une très bonne idée. Et en ce qui concerne l'équipe de France, c'est un conseil que je donne: aucune inquiétude. L'équipe de France d'hier, ça a le nom de l'équipe de France, mais aucun espoir de pouvoir gagner une compétition.
Si, ça, on est très inquiet pour ça. Marion, juste, je vais venir te voir. On va aller voir Julien Landry. On suit la finale des championnats de France de tennis de table avec le premier set pour Alexis Lebrun face à son frère.
C'est parti très vite. Mais on sent beaucoup de tension entre les deux frères. 11-3 pour Alexis dans cette première manche, avec la particularité, c'est qu'ils sont accompagnés par un coach depuis le début de la compétition. Et que là, les deux, évidemment, ils ont le même coach. Donc, ils sont décidés de venir sans coach pour cette finale.
Qu'ils arrivent à se dire les faiblesses de l'adversaire.
Et donc, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, sur les temps, ils prennent parfois des temps morts pour aller discuter avec le coach, mais là, ils se connaissent par cœur depuis qu'ils jouent, depuis qu'ils sont tout petits. Et Alexis fait encore la course en tête dans cette deuxième manche, 4-2, mais on sent beaucoup de tension, parce que depuis ce matin, autant on a assisté à des échanges magnifiques entre tous les joueurs, mais là, pour le moment, c'est du service et de la remise. Les joueurs se connaissent par cœur, et pour moi, on n'a pas assisté à un grand échange. 5-2 pour Alexis dans cette deuxième manche, qui a remporté la première 11-3.
Ça va être très serré. On est avec toujours Arthur Perrault pour parler de l'équipe de France. Marion, je voulais répondre aussi à Coach qui nous disait finalement que l'équipe alignée hier a certes le nom de l'équipe de France, mais n'a pas grand-chose d'autre à voir avec nos bleus habituels.
C'est ce qui fait un petit peu peur, parce qu'on sent quand même qu'on est à 3 mois quand même de l'Euro. Donc on sent quand même que Didier Deschamps sait qui il va emmener en Allemagne. Moi, il y a une chose que je ne peux plus entendre. Alors Arthur, il va mal le prendre, mais je préfère lui dire quand même. Je ne peux plus entendre, oui, mais en équipe de France, il y a beaucoup de joueurs qui sont encore engagés en Ligue des Champions. C'est le cas pour l'Allemagne aussi. Mm-hmm. Voilà. Si ça avait été effectivement un match amical contre la Colombie ou...
Attention, parce qu'on affronte le Chili, là. Du coup, t'es en train de nous dire que...
voilà. Mais l'Allemagne aussi a beaucoup, beaucoup de joueurs engagés en Ligue des Champions. Et je sais quand même d'expérience que ces matchs amicaux sont des vrais tests quand même. Si c'était dans un an, dans 2 ans, évidemment, on serait pas spécialement inquiet. Mais là, on a quand même vu beaucoup de faiblesses, et je sais qu'on va en parler. Beaucoup de joueurs.
On
va cibler des joueurs, mais je trouve qu'il y avait. On a parlé. Alors, je sais qu'Adrien Rabiot a parlé d'état d'esprit, mais il y a pas que l'état d'esprit, je crois. Je me demande si pour certains joueurs, il y a pas un problème tout simplement de niveau.
Ouais. On va écouter le sélectionneur justement Didier Deschamps, qui pour lui, il n'y a pas de raison spécialement de s'inquiéter.
Non, non, je suis pas inquiet. Après, s'il faut prendre une claque pour que ça se passe bien par la suite, je vous l'avais dit, c'est toujours bien d'avoir des difficultés. Hein. Mais demain, je vous l'avais dit, sans espérer en avoir de trop. Là, on en a eu pas mal. Je vais pas dire trop, mais beaucoup. Donc, ça devra nous servir, même si dans 3 jours, ça sera notre adversaire. Et... Mais si je peux changer les joueurs aussi, mais il y a, oui, qu'il y ait une fatigue pour différentes raisons qui soit là et bien présente. Mais c'est pas une excuse non plus. Voilà, l'Allemagne peut avoir des joueurs aussi, mais dans les intentions, on était moins déterminés que d'habitude.
Ni plus ni moins ce que tu viens de nous dire aussi, Marion, effectivement, le sélectionneur. Arthur, quand on parle de... Moi, j'ai du mal aussi à entendre ce terme de décompression, alors qu'on est à 3 mois oui. maintenant du début de l'Euro. C'est quand même un petit peu dur. Alors, oui, j'entends hein, qu'il y a la Ligue des Champions en tête, tout ça,
La décompression, mais... parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent de
on
faire...
On vient pas en vacances à Clairefontaine.
Une série de, ça s'est enchaîné. D'une dizaine de matchs en 30 jours. Quand tu fais 10 matchs en 30 jours, c'est-à-dire un match tous les 3 jours, et qu'il y a une coupure internationale, et que 3-4 jours après, il faut que tu t'en...
C'est le cas de l'Allemagne, Roland.
Mais qui t'a dit que c'était le cas uniquement de l'équipe de France? Ok, mais donc cette équipe de France qui était favorite, nous avons rencontré une équipe allemande qui se cherche, qui cherche des solutions. Et bien là, il semblerait qu'il les ait trouvées.
Ouais. Arthur, ce terme de décompression, on a quand même un petit peu de mal à...
Mais c'est au sens large, en fait. Ouais. Vraiment, pour en avoir parlé avec plusieurs entourages dès ce matin, c'est vraiment au sens large. Et pour revenir sur ce que disait Marion, oui, c'est parce qu'il y a des enchaînements de matchs et surtout des objectifs en Coupe d'Europe, d'accord. Mais c'est surtout physique. Enfin, il suffit de voir encore hier l'état des joueurs de l'équipe de France après le match. On nous fait comprendre très clairement qu'il y en a qui sont rentrés en jeu et qui n'étaient pas à 100%. Et qu'il y en a qui sont sortis en cours de match et qui ne sont plus à 100%. Par exemple, Jules Koundé, va falloir surveiller. Là, il y a la séance de récupération qui a démarré depuis 15 minutes. Mais va falloir surveiller sa cheville, même si ça a l'air d'être un simple coup. Mais encore une fois, ce sont des joueurs qui enchaînent depuis le début de la saison, qui ont des objectifs européens, en championnat également, et qui, quand ils arrivent en équipe de France, se disent, on va passer une semaine et demie tranquille à Clairefontaine, il fait beau, on sera entre copains et il y a 2 matchs amicaux. Forcément que sur le papier, cette approche-là, plus d'un ont dû l'avoir au moment d'arriver dans les Yvelines lundi.
Alors que l'Euro se rapproche, ça me semble dingue, mais on va continuer d'en parler avec toi, Arthur. Juste Julien Landry, deuxième set pour Alexis Lebrun.
Ouais, il vient d'empocher la deuxième manche, 11-6, le grand frère qui mène donc 2-0. On rappelle qu'il faut emporter 4 manches pour devenir champion de France, et on a sorti surtout de la frustration chez Félix, qui en a jeté sa raquette de rage.
Ouais, en plus, c'est pas 11-10 ou 11-9, c'est 11-3, 11-6, il y a une petite amélioration au deuxième set.
Ouais, il a amélioré, il a notamment remporté les longs échanges, Félix, et là il fait la course en tête. 2-0, il a pris les 2 premiers points sur l'engagement de son frère. Mais son frère, évidemment, avec son revers, lui fait mal. Mais voilà, Félix, on le sent un peu frustré. Il en a jeté sa raquette, il a tapé de colère son pied, parti s'asseoir dans son camp. Il va falloir évidemment revenir à cette partie menée 2-7-0 par son frère. Mais là, il mène 2-1 dans cette troisième manche ici pour la finale du championnat de France.
On continue de revenir, nous, sur la défaite de l'équipe de France hier soir. Marion Coach, on entendait Arthur Perrault nous parler de décompression, que les joueurs sont fatigués. Mais alors, à quel moment on va se concentrer sur l'Euro? Alors, une fois que la Ligue des Champions est terminée, quand est-ce qu'on peut se dire qu'on est totalement focus sur le rendez-vous le plus important, peut-être, de la saison, quand même, d'un joueur? Un Euro, c'est aussi tous les 4 ans. C'est pas n'importe quoi dans une vie.
Alors, l'histoire va peut-être nous donner tort, Flora, parce que si ma mémoire est juste, en 2018, l'équipe de France rencontre la Colombie en match amical et se fait battre. Et on connaît l'histoire de 2018.
Même en 2022, ouais, la campagne est pas brillante.
Et pas brillante. Et je sais que Didier Deschamps ne prend pas très au sérieux les matchs amicaux. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas réellement si c'est pas un tournoi, si c'est pas une...
Il n'y a pas un vrai enjeu,
il ne prend pas ça très au sérieux. Mais ce qui m'a plus inquiété, c'est le niveau des joueurs. On parlait à l'instant de Jules Koundé, qui n'est, à mon avis, pas tout à fait, alors c'est très dur de dire ça, pas tout à fait au niveau de l'équipe de France. En même temps, il me fait penser à Bakary Sagna, c'est-à-dire que aujourd'hui on a l'habitude quand même de ces défenseurs qui défendent et qui savent attaquer, ouais, qui savent prendre leur couloir, comme Hakimi au Paris Saint-Germain. On n'a plus l'habitude de voir des joueurs très défensifs comme ça, comme Bakary Sagna ou comme Koundé.
Latéral droit, c'est pas vraiment son poste, on peut lui rendre ça aussi.
Et donc effectivement, on sent qu'il y a un peu de fignolage, un petit peu de... Il y avait quand même des absents, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des petites blessures. Mais il est vrai, et là je reprends ce qu'a dit Roland, que si c'est cette équipe-là qui se présente à l'Euro, Bah oui, Flora, ça va être très compliqué de gagner l'Euro, oui.
Non, puis on a déjà vu aussi dans les matchs de préparation, ok, mais même dans les matchs de poule, que ce soit en Coupe du Monde ou en Championnat d'Europe, on a déjà vu quand même une équipe de France moyenne et après, et petit à petit, arriver à faire des progrès, arriver à être de mieux en mieux et pour aller jusqu'au bout. Donc ça, on aura l'occasion de le revoir. Je crois qu'il y a deux matchs de préparation encore.
Après. Il y en a deux. Alors après, ce match de Chili, on en aura deux, effectivement, au début juin. On ne sait pas encore contre qui, hein, Arthur, c'est ça, hein.
À Metz et à Bordeaux, et les adversaires ne sont pas encore calés. On s'est d'ailleurs renseigné encore hier soir, ce n'est pas totalement fixé.
Voilà, et déjà, un truc que je souligne, que j'essaie de vous faire souligner, pas pour avoir raison, mais pour arriver à ce qu'on analyse ensemble. Quand je vois que pour le match, trois jours après, j'insiste sur le fait que l'équipe de France, évidemment qu'elle s'appelle toujours l'équipe de France, mais on peut rajouter l'équipe de France qui a démarré contre l'Allemagne, maintenant avec l'équipe de France qui va démarrer contre le Chili. Mais sur les quatre défenseurs et le gardien de but, il y aura quand même, ils sont cinq, il y aura quand même quatre changements.
Probable.
Donc, les amis, je pense pas avoir complètement tort quand je dis, il y a l'équipe de France, bon, mais ok, qui démarre ces matchs-là, mais cette équipe de France, quand par exemple, on regarde un petit peu les joueurs point par point, Koundé, c'est moyen, Thuram, dans un poste de numéro 9, c'est moyen, donc Mbappé, il est dans une période un petit peu quand même compliqué, mais la complication, c'est lui qui l'a cherché de partir dans un autre club aussi important que le Real Madrid, dans une intersaison où il y a le championnat d'Europe et la Champions League, et les Jeux Olympiques. Bon, c'est sincèrement, je regarde ça avec beaucoup de curiosité, mais j'essaie de noter des petits trucs qui me paraissent anormaux, et à ce moment-là, je me permets de vous les dire.
Et puis j'ai quand même été un petit peu atterré par le niveau de Samba dans les buts. Alors ça, on sait très bien qu'il ne sera que troisième gardien.
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être le joueur qui a été le plus intéressant finalement hier soir. Il fait quand même.
C'est le meilleur joueur de l'équipe de France hier soir.
Il sort quand même plusieurs fois l'équipe de France, notamment en seconde période, Marion.
Oui, moi je pense aux 14 premières secondes. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pas totalement de sa faute. C'est pas totalement de sa faute, mais enfin on pouvait quand même s'attendre à. Il regarde quand même le ballon.
Oui, mais quand tu vois un défenseur, excuse-moi de te couper. Défenseur, il y a quand même le nom défenseur, le terme défenseur. Quand je vois un défenseur tourner le dos, je n'ai pas dit tourner autre chose, mais en vérité, j'aurais pu dire tourner les fesses. Donc, sincèrement, je regarde, je me pince, mais je dis, mais je rêve ou quoi ? Un gars qui doit défendre, il défend avec face au danger. On ne tourne pas les fesses quand il y a un tir au but, quand même.
On va cibler.
C'est une habitude que je vois chez beaucoup de défenseurs qui n'ont de défenseur que le nom.
On va cibler évidemment les postes aussi, essayer de détailler un petit peu ce qui s'est passé hier soir. On a Karim qui est avec nous au 32-16. Salut Karim.
Salut tout le monde.
On parlait de la prestation des Bleus hier, d'état d'esprit notamment, de cette décompression dont a parlé Didier Deschamps et les joueurs pour justifier un petit peu la performance d'hier soir. Qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Moi, ce que j'en pense, c'est que c'était le néant total. J'étais un peu choqué quand même parce que, ok, faut pas oublier aussi qu'ils ont affronté une équipe allemande qui ont des joueurs qui sont très techniquement, qui sont très au-dessus au-dessus de l'équipe de France. Si on les prend même par un, si on prend les joueurs par joueur, je pense que à part Mbappé, Dembélé et encore, peut-être même pas Dembélé, déjà au milieu de terrain, il y a deux mondes d'écart techniquement si on prend les joueurs. Donc je pense que ça a fait aussi
Après, il faut aussi rappeler que l'Allemagne était en plein doute
Au niveau profil de joueurs, j'essaie de te suivre. Donc les Allemands ont deux numéros 10 intéressants, jeunes qui savent ce qu'est créer et être bon offensivement pour faire des passes intelligentes, et nous n'en avons pas un.
Ah, mais ça, c'est ce que j'ai aimé sur l'équipe allemande, c'est Nagelsmann aussi, hein, c'est très important de le dire, c'est que il a mis deux milieux côtés créateurs. Il a pas mis des sprinteurs qui mangent la ligne et qui restent sur leur coin. le jeu allemand hier, il était impressionnant et c'est pour ça aussi l'équipe de France, ils ont eu énormément de mal. Mais après, pour l'équipe de France, pourquoi je suis inquiet? C'est parce que ce match, il me fait penser un peu au match de contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde pendant les 80 premières minutes où en fait, c'est vraiment le néant total. C'est pas OK, on peut faire le dos rond, mais là, il y avait rien. Il y avait pas quatre passes. Moi, là, je suis inquiet pour ça. Ouais. Ensuite, pour l'Euro, voilà, il y a que l'Allemagne qui a ces joueurs-là. Il y a peut-être deux, trois équipes qui ont des
Il y a quand même des concurrents sérieux, hein.
Il y en a deux, trois, mais après, ils vont pas forcément les affronter de suite, l'équipe de France. Ils vont pouvoir prendre confiance. Mais si on fait une entame comme ça, si on fait une entame comme ça sur la compétition, même sur les débuts de match, ben les joueurs, en fait, ils n'ont pas le temps de prendre confiance.
Bah, ça va très vite, un euro. Ouais, t'as raison de préciser.
Et c'est important, le niveau mental et la dynamique dans un match. C'est qu'il faut rentrer dans la compétition, réussir ses premières passes, réussir ses premières actions. Là, ce qui s'est passé contre l'Allemagne, c'est le contraire.
Pas prendre un but à la 7e seconde.
Voilà, on prend un but à la 7e seconde. Pendant 15 minutes, on ne voit pas la balle. Ils nous font tourner. Ensuite, on ressort un peu la tête.
On a joué 20 minutes sur 90, hein, globalement, hier, à peu près.
Oui, il y a eu 20 bonnes minutes. Mais c'est peut-être ça la bonne chose, c'est de se dire que pendant ces 20 bonnes minutes, et ça, c'est la force de l'équipe de France, c'est que malgré tout, pendant 20 minutes, ils ont eu des bonnes occasions.
Il y a du talent, malgré tout, effectivement. On va te remercier Karim qui est avec nous au 32-16. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marion.
Oui, non, mais je voulais réagir effectivement sur ce qui vient d'être dit parce que je suis assez d'accord avec ce que Karim a dit, notamment sur le milieu. Moi, je pense que l'équipe de France n'a jamais réussi à remplacer N'Golo Kanté, à remplacer Paul Pogba, à remplacer Blaise Matuidi. Je pense que là, l'équipe de France a énormément perdu au milieu et je pense que c'est là la clé aussi du problème en équipe de France. Et puis c'est vrai que l'équipe de France, quand elle disparaît longtemps. Et c'est vrai que ça m'a rappelé quelques minutes, alors même si ça n'a rien à voir avec le match contre l'Argentine.
Non, mais c'est une analogie que beaucoup de gens ont fait, effectivement.
Je trouve intéressante, mais vraiment, encore une fois, n'oublions pas, c'est difficile aussi avec les joueurs qu'a Didier Deschamps.
Sur le plan des joueurs, justement, avec ce profil, bon, évidemment, on va parler de Griezmann. Griezmann, il y a deux ans de ça, on essayait quand même de réfléchir un petit peu, puisqu'on pouvait se dire qu'il fallait voir une autre solution. Il y avait Nkunku, mais malheureusement il se blesse, blessure sur blessure sur l'effectif de ces deux matchs là il y a un joueur, Diaby, si je me rappelle bien, qui est quand même capable techniquement de jouer un rôle de milieu offensif. Il y aura pour l'avenir un garçon comme Lefebvre de Rennes qui malheureusement s'est blessé aux ischios, mais qui pour moi me pourrait être très très intéressant. Donc ce profil de joueur, évidemment qu'il va falloir le chercher et pas être toujours en train de se dire donc il faudrait surtout pas que Griezmann se blesse. Il peut se blesser, mais il peut aussi être remplacé à la 60e minute par un joueur capable de faire des dernières choses.
Juste, on va en parler, on va détailler tous les joueurs dans quelques instants. Julien Landry, la finale des championnats de France est relancée entre les frères Lebrun.
Elle est même enfin lancée. Ouais. Félix qui s'est réveillé dans cette troisième manche, qu'il a remporté 11-8. Il était pourtant mené 8-5, mais il est revenu dans cette partie. Il a d'ailleurs lui-même demandé un propre temps mort pour faire le point. Et puis depuis, le jeu a monté en intensité. On est en train d'assister à une sacrée partie de manivelle entre les deux garçons avec des échanges parfois très très longs, très très beaux, notamment sur les diagonales de Rovère. Et le papa Stéphane et Dominique, la maman, sont au premier rang. Ils ont enfin pu s'asseoir en tribune pour regarder leur fiston se battre pour cette finale. Mais là, on assiste vraiment à du ping-pong de très très haut niveau, notamment sur ce point-là où les deux joueurs sont en train de reculer de mètre par mètre. Et c'est Félix qui va s'imposer sur ce point-là pour égaliser à 7 partout dans cette quatrième manche. Deux manches à une pour Alexis. Il faut être la première à 4 pour devenir champion de France.
Allez, 17h28 sur RMC. Arthur Perrault reste avec nous, coach Marion. Dans quelques instants, on revient dans l'intégral foot pour continuer de parler de l'équipe de France. Quels joueurs? S'il y en a qui ont marqué des points? Non, pas tellement. Est-ce qu'il y en a qui en ont perdu en revanche hier? Oui, c'est le cas et on va détailler tout ça dans quelques instants sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
17h31, on est de retour dans l'Intégral Foot sur RMC avec Marion Hédalo, avec coach Courbis et avec Arthur Perrault qui est toujours avec nous. On vous attend au 32-16 pour venir débattre sur l'équipe de France et cette défaite hier soir face à l'Allemagne. On se projette surtout vers la suite et donc l'Euro qui arrive à grands pas, moins de 3 mois maintenant. Alors y a-t-il de vrais enseignements? On va en parler évidemment dans quelques instants, mais d'abord les championnats de France de tennis de table et tout est relancé, Julien Landry, dans cette finale entre les frères Lebrun.
Félix vient d'égaliser à deux manches partout et on a assisté à une quatrième manche de très très haut niveau et entre les deux frangins avec des échanges assez exceptionnels, souvent remportés d'ailleurs par par Félix qui on a le sentiment qu'il a pris l'ascendant.
Ça y est, il s'est réveillé.
Cette partie, il avait complètement raté cette entrée dans le match, perdu 11-3, 11-6 les deux premières manches et là il a repris l'ascendant notamment sur les longs échanges où on sent qu'il a un léger ascendant sur Alexis et c'est Alexis qui mène dans cette cinquième manche pour le moment 2-1 et au service de Félix perdu, ça fera 3-1 pour Alexis. Deux manches partout entre Alexis et Félix Lebrun pour la finale de ce championnat de France.
Allez, on se projette maintenant vers la suite pour l'équipe de France et donc l'Euro qui arrive dans moins de 3 mois maintenant. Y a-t-il de vrais enseignements à tirer de ce match hier soir et de cette défaite 2-0 face à l'Allemagne en vue de l'équipe qui partira justement en Allemagne l'été prochain? La réponse de Didier Deschamps.
Oui, toujours. Comme vous aussi, il y a des analyses, bien évidemment, mais à partir du moment où, collectivement, on est en dessous de ce qu'on est capable de faire, c'est pas fuir ce qui s'est passé. Ça nous est arrivé, donc s'il y avait besoin, on sait ce qu'il faut faire pour pas que ça nous arrive dans 3 jours et encore plus avec ce qui nous attend à l'Euro.
Arthur Perrault qui est toujours avec nous. Alors, quels enseignements ont tiré de ce match hier? Qu'est-ce qu'ils en ont tiré, le staff des Bleus, selon toi?
Eh bien, il y a quand même 3 joueurs qui étaient attendus dans ce rendez-vous, même s'il était amical. C'est d'abord, vous avez commencé à parler de la défense. Je pense que Benjamin Pavard était quand même très attendu en défense centrale. C'est vrai qu'il a longtemps été en difficulté hier, surtout en première mi-temps. Je pense notamment que sur ce but à la 7e seconde de jeu de Wirtz, c'est lui qui doit sortir sur le joueur allemand et malheureusement, il ne réagit pas assez vite. On a parlé de l'absence d'Antoine Griezmann. Il y a eu de nombreux essais de fait par le staff de l'équipe de France tout au long de la semaine et finalement c'est donc Warren Zaïre-Emery qui l'a remplacé. Alors encore une fois, on va rappeler, c'est un joueur de 18 ans qui est devenu titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, qui hier soir est quand même tombé sur du très très lourd avec Gundogan, avec Kroos. Il est tombé sur plus fort que lui, tout simplement plus expérimenté, et il a eu trop tendance à jouer derrière lui et à éviter ses projections vers l'avant qu'on recherchait absolument pour combler l'absence de Griezmann. Et puis pour terminer, Roland en a parlé, évidemment Marcus Thuram, qui est très, très performant depuis le début de saison avec l'Inter Milan. On se demandait s'il était capable d'être aussi un grand numéro 9 en sélection. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, cette question reste en suspens. Et c'est pourquoi, vraisemblablement, pour ce match face au Chili mardi à Marseille, ce sera Olivier Giroud qui débutera à la pointe de l'attaque des Bleus.
Mais messieurs, dames, coach, Marion, on a parlé un petit peu de cette défense, on a évoqué Jules Koundé avec toi, Marion, Benjamin Pavard, chacun ne joue pas vraiment à son poste finalement non plus dans cette défense, même si Benjamin Pavard est plutôt un défenseur central qui a été décalé sur la droite par la suite par Didier Deschamps. Mais que faire de cette défense aujourd'hui? On sait qu'en plus Didier Deschamps a eu beaucoup de mal à aligner 2 fois de suite la même charnière depuis qu'il est en place, depuis la retraite aussi de Raphaël Varane. Que faire avec cette défense là?
Mais là, tu viens de le dire, depuis la retraite de Raphaël Varane. Et quand on a toujours pensé que Raphaël Varane était un petit peu dans l'ombre de Ramos au Real, que finalement, mais Raphaël Varane était quand même l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, en équipe de France, il n'y a pas l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il y a des défenseurs, mais il y a pénurie déjà, je pense, de défenseurs en Europe et particulièrement en équipe de France. Et puis, je pense aussi que depuis 2018, on n'a pas remplacé non plus Samuel Umtiti, qui était quand même défenseur du Barça. C'est-à-dire qu'il y avait le défenseur du Barça, le défenseur du Real. Aujourd'hui, on se retrouve quand même avec des joueurs qui ont plus de difficultés, comme tu l'as dit, qui jouent pas à leur poste. Et quand même aussi, et c'est ça qui me rassure aussi, des tests, même si tous les deux vous avez trouvé Samba très convaincant. Moi, je vous aime beaucoup, mais moi, pas du tout. Et je pense qu'effectivement, le retour d'un Mike Maignan, va faire beaucoup de bien et va rassurer aussi les défenseurs. Tout ça est très psychologique aussi.
Coach, on va t'entendre sur les défenseurs juste là ensuite. Toujours cette finale des championnats de France du tennis de table avec toi, Julien Landry. Ça a rebasculé encore.
Ouais, c'est Alexis qui vient de remporter la 5e manche et qui va mener 3-2. On l'avait pourtant senti parfois abasourdi par le niveau de son frère sur certains points où il regardait notamment le clan en disant mais comment il arrive à renvoyer des balles comme ça. Mais finalement, en serrant un petit peu le jeu, en étant très fort notamment sur ses propres services, il a réussi à écœurer Félix, à empocher cette
cinquième manche 11-5 et le voilà plus qu'à une manche d'un troisième titre de champion de France pour Alexis. Félix va devoir serrer le jeu pour offrir une dernière manche décisive ici à Bougnol, ce qu'évidemment tout le monde attend, mais on assiste vraiment à du ping de très haut niveau dans cette finale entre Alexis et Félix Lebrun. 3 manches à 2 pour Alexis Lebrun, il ne lui manque plus qu'une manche pour devenir champion de France.
Coach, on parlait de cette défense, comment ne pas parler aussi de Upamecano qui est maintenu par Didier Deschamps dans cette défense, alors que c'est vrai qu'il ne fait pas une saison non plus incroyable en club. On va rappeler que Konaté est toujours un petit peu gêné physiquement, c'est pour ça qu'il n'était pas aussi titulaire hier. Qu'est-ce que tu ferais toi dans cette défense centrale? Défense déjà, plus largement d'ailleurs.
Déjà je rencontre un problème puisque j'ai eu l'occasion tout au long de ma carrière et de ma vie sportive d'étudier tous les postes et d'essayer un petit peu de comprendre comment on pourrait améliorer. Là, je trouve que sur un plan individuel, sur un plan collectif, on a toujours les discussions pour la beauté du football, de voir combien de buts on va marquer, comment on va construire, les coups de pied arrêtés. Dernièrement, on s'occupait des tirs au but et des pénaltys. Mais c'est bien qu'on s'occupe des tirs au but et des pénaltys. Il faudrait s'occuper aussi des coups francs. Hein, donc je ne vois plus depuis Platini ou Jérôme Rotten des tireurs de coups francs. Et pour en revenir et répondre à ta question, ben je pense que sur le plan défensif, on est très moyen dans le comportement, on est très moyen dans ce que j'appelle moi la distance de marquage, on est très moyen dans les couvertures, on est très moyen dans le comportement. C'est insupportable pour moi de voir un défenseur qui se tourne quand il y a un tir. Il y a un danger, c'est un tir avec un ballon. C'est pas parce qu'on prend un ballon dans le front qu'on risque quand même d'aller à l'hôpital. Et voir ces comportements là, ben m'inquiète. Et quand je vois que d'un match à l'autre, en 3 jours, on peut changer le gardien, l'arrière droit, Klose, l'arrière central, Saliba, l'autre arrière central, Hernandez, et l'autre arrière gauche, Hernandez, eh bien, nous allons voir l'équipe de France de mardi, qui malheureusement, et c'est ça que ça complique un petit peu notre boulot, ne rencontrera pas l'Allemagne. Ils rencontreront le Chili.
Quand tu parles de comportement, Roland, pour aller plus loin là-dedans, quand tu dis le comportement, ils ont peur de se blesser, quoi, en gros. C'est ça que tu veux dire. Ils ont peur de se faire mal. C'est ça que tu veux dire.
Je sais pas, mais la peur d'un ballon, moi, j'avais certainement beaucoup de défauts. Mais on peut parler à ceux qui m'ont connu. Je ne m'imaginais pas en train de tourner les fesses sur un tir au but. C'était pour moi une obligation professionnelle d'avoir le comportement d'un défenseur quand je dois être performant sur le plan défensif. Et quand je vois certaines interventions, quand je vois des joueurs qui arrivent une seconde avant ou 2 secondes après, quand je vois des fautes stupides qui donnent des cartons jaunes. Des cartons jaunes évitables, je dis que dans notre formation et dans notre préformation, est-ce qu'on s'occupe bien de ce que doit faire un défenseur pour bien défendre? J'ai un gros doute.
Arthur, ouais. Vas-y.
Là, pour réagir sur ce que disait Roland au début de son intervention, le fait de faire tourner sur l'enchaînement de 2 matchs amicaux, Didier Deschamps a toujours fonctionné comme ça. Marion en parlait aussi tout à l'heure. Il accorde un peu moins d'importance aux matchs amicaux. Et je vous donne quand même la compo probable, même si elle sera affinée encore ce soir après la séance du jour. Ça nous donnerait Mike Maignan qui devrait être de retour dans la cage. On rappelle qu'il a eu quelques petits pépins physiques aux ischios jambiers tout au long de la semaine. La défense avec une équipe globalement en forte connotation marseillaise. Klose à droite, Théo Hernandez à gauche, la charnière Saliba Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, c'est à confirmer, Tchouaméni devrait être reconduit aux côtés de Camavinga et de Matteo Guendouzi qui réalise un très bon début de saison en Italie.
Excuse-moi de te couper, après tu vas nous donner 3 attaquants.
Bien sûr.
Qui c'est dans ces 3 milieux, celui qui serait capable de faire une passe intelligente ou une avant-dernière passe intelligente?
Pour avoir vu la mise en place de mercredi, qui était vraiment la mise en place la plus poussée, Roland, sincèrement, je pense que c'est Camavinga.
Kamavinga, ok. Ouais.
Je pense que c'est le plus à même de se retourner et d'arriver à se projeter.
Et le petit Diaby, on l'a apporté pour qu'il prenne des photos.
Il l'a jamais utilisé comme ça, Roland. Sincèrement.
Non, mais lui.
Il l'a jamais utilisé comme ça. À l'entraînement cette semaine, il l'utilise à la droite de l'attaque. Il l'utilise absolument pas en relais.
Et alors, il jouerait ce match-là face au Chili ou pas, alors, Diaby?
Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas la tendance. Devant, ce serait plutôt Colomwani avec Giroud à la pointe, je le disais tout à l'heure, et Mbappé comme répétition générale le 31 mars.
Ce que j'essaie, sans prétention, de vous faire comprendre, c'est que je fais toujours, pour être clair, des comparaisons avec des exemples. Pour moi, Mbappé, mettons-le dans le profil d'une flèche extraordinaire. Qui c'est l'arc qui va donner le ballon à cette flèche extraordinaire? Qui c'est?
Quand Antoine Griezmann n'est pas là, c'est ça que tu nous demandes.
Entre autres, oui.
Oui. Non, mais il a été très critiqué, Griezmann, par une partie des Français depuis quelques années. Je crois que c'est un joueur qui est un tout petit peu sous-coté et je pense qu'on ne se rend
pas
compte.
Là, on s'en rend compte.
Là, on s'en rend. Mais je pense que pendant des années, on ne s'est pas rendu compte de l'intelligence de jeu d'Antoine Griezmann. C'est un joueur qui, peut-être, de temps en temps, a eu des petites paroles malheureuses en conférence de presse et je trouve que parfois, on lui en a voulu un petit peu trop. Je pense qu'il est un petit peu sous-coté. Je pense qu'il y a eu cette aventure barcelonaise qui n'a pas aidé. Mais au bout du compte, il est à l'Atlético, qui se retrouve d'ailleurs, qui est toujours en Ligue des Champions, et on voit bien qu'il y a une Griezmann dépendance en équipe de France.
D'accord, mais je répète et je vais rappeler un truc qui maintenant n'est plus d'actualité, puisque on est tellement passionné qu'on se prend aussi pour Didier ou pour l'entraîneur de tel ou tel club ou quoi.
Je te le confirme.
Et moi avec. Donc quand par exemple je regarde le besoin que nous avons, j'essaie de trouver un petit peu des solutions. Un garçon, par exemple, maintenant c'est plus d'actualité, que je pense qui aurait pu être intéressant. Allez. Comme 23e joueur, si on en choisit 23, c'est Savanier, qui pouvait dans un plan B, dans les 20 dernières ou 30 dernières minutes, un plan A qui démarre avec une autre formule, et un garçon comme ça. Le fait de Rennes, je pense que dans les mois à venir, ça sera un garçon intéressant pour notre
coach,
pour
te notre coupe, équipe. Balle de match chez les Lebrun, la finale des championnats de France, Julien Landry.
Ouais, balle de match pour Alexis Lebrun, qui était pourtant mené 10-6 dans cette cinquième manche. L'énorme échange, et Félix Lebrun qui s'en sort et qui va emmener son frère dans un très long sixième manche. 3-2 pour Alexis Lebrun. La première balle de match est sauvée. Félix Lebrun au service, qui va évidemment s'en vouloir. Il menait 10-6 dans cette manche pour offrir une dernière manche décisive. Et puis Alexis, il a serré le jeu. Il a réussi à revenir dans cette partie pour peut-être s'offrir une deuxième balle de match. Voilà, la deuxième balle de match pour Alexis Lebrun sur son service. Félix qui s'est mis à reculer avec la diagonale de revers. Mais Alexis, il est très fort dans la diagonale de revers. La deuxième balle de match pour Alexis Lebrun. Et Félix Lebrun, encore une fois, qui s'en sort. 13-13 entre les deux hommes. 3 manches à 2 pour Alexis Lebrun pour le moment.
Donc, je disais malheureusement, je l'ai déjà dit et je le rappelle, il y a 2 ans de ça, on avait un coucou qui montait, mais alors à une allure extraordinaire. Et malheureusement, il est monté certainement un petit peu trop vite parce qu'il a explosé en vol, rechute sur rechute. Et Marion l'a rappelé dernièrement, si on fait les comparaisons avec ce que nous avons connu un Griezmann très bon, mais nous avons connu un Griezmann moyen. Nous avons connu un Griezmann où on cherchait déjà le remplaçant et le remplacement de Griezmann, et c'était, plus ou moins un concours. Mais en 2018, quand nous avons Mbappé côté droit, donc qui est en plus pas son meilleur côté, mais il peut y jouer aussi, Giroud, Matuidi côté gauche, il y avait Griezmann, mais Griezmann accompagné de N'Golo Kanté et de Pogba, c'est ce duo de joueurs à côté de Griezmann. Je suis désolé, les joueurs qu'il y a aujourd'hui, ce sont des joueurs pleins de bonne volonté, mais qui n'ont rien à voir avec le Pogba 2018 et le N'Golo Kanté 2018.
La victoire d'Alexis Lebrun, Julien Landry.
La troisième balle de match aura été la bonne. Alexis a toujours l'ascendant sur son frère, il en a sauté à pieds joints sur la table au milieu du cours. La troisième balle de match, évidemment, est la bonne. Félix Lebrun en pleure avec la serviette pour évidemment se consoler. Il espérait récupérer enfin ce titre de champion de France, mais encore une fois il s'incline contre son frère. Il aura eu les balles de 7 dans cette sixième manche pour revenir à 3 partout, mais finalement Alexis en aura repoussé 6, et à la troisième balle de match il aura conservé son titre de champion de France, le troisième champion. Et là Alexis Lebrun qui va demander un
clapping comme ils avaient fait hier.
C'est
voilà,
quand même extraordinaire clapping. Ce qu'on est en train de vivre avec ces deux frères.
Voilà le clapping de Alexis Lebrun qui avait déjà fait ça hier lors de la victoire en double. C'est une habitude qu'ils ont avec leur frère. Hier ils l'ont fait en double, là il fait seul devant le chagrin, le dépit de son frère assis, très marqué par évidemment cette défaite. On est en train de demander au public de se lever pour applaudir Félix Lebrun, mais évidemment c'est très dur de s'incliner en finale. Alexis Lebrun a toujours l'ascendance sur son frère, mais honnêtement on s'est régalé, on a assisté à une finale de très très haut niveau, mais c'est encore une fois Alexis qui s'en sort vainqueur.
Merci beaucoup Julien, on va remercier aussi Arthur Perrault d'avoir été avec nous. Tu vas suivre l'équipe de France évidemment jusqu'à mardi, jusqu'à ce match, c'est important.
Et tu nous donneras les dernières infos. Il y a un problème pour Montpellier, qu'il faut un duo d'attaquants là,
il y a Félix et Alexis,
pour se sauver, les deux frères ils peuvent y aller hein.
Merci Arthur. 17h47, on revient tout de suite dans l'intégrale foot. On va parler de l'Allemagne un petit peu dans quelques instants, qui va beaucoup mieux du coup d'un coup avec Paulo Breitner. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégrale Foot.
Flora Moussi.
17h49 tout pile, on est de retour dans l'Intégrale Foot sur RMC avec Coach Courbis, avec Marion Hédalo. On a beaucoup parlé de l'équipe de France, parlant un petit peu de son adversaire d'hier soir, l'Allemagne, avec notre drôle de dame Paulo Breitner. Salut Paulo.
Bonjour Flora, bonjour tout le monde.
Salut Paulo.
En fait c'est simple, hein, dès que l'Allemagne est dans le doute, bah, il suffit de programmer un petit match face à l'équipe de France et puis d'un coup, hop, ça va mieux hein.
Oui, on peut voir ça comme ça. Le problème, c'est que ça ne dure pas longtemps. C'était un peu le même cas après le mois de la victoire, un peu surprise aussi, hein, sous les ordres de Rudi Völler au mois de septembre 2023. Ça avait coulé très rapidement derrière. Mais c'est vrai que celle de hier, au-delà de la performance de l'équipe de France, qu'on peut trouver comme, on peut estimer qu'elle était très moyenne, il y a un grand gagnant hier soir, c'est Julian Nagelsmann. Il avait fait une sélection de joueurs qui avaient beaucoup surpris en Allemagne, en amenant évidemment des nouveaux joueurs, mais surtout en éliminant certains joueurs du Bayern Munich, en ne sélectionnant qu'un seul joueur du Borussia Dortmund, qui sont deux clubs évidemment qui donnent beaucoup de joueurs historiquement à la sélection. Et surtout, il a changé de schéma de jeu pour la première fois, 4-3-2-1, avec le retour évidemment du nouveau boss, on va dire. L'ancien, c'est le nouveau, c'est,
oui, c'est ça,
avec sa performance. Et puis, des deux prodiges allemands, hein, les, on appelle ça les Zauberer en Allemagne, les magiciens, de Musiala évidemment et Florian Wirtz. Et ça, on a le sentiment en fait en Allemagne, c'est quand Nagelsmann a envoyé un message en fait aux 80 millions de sélectionneurs allemands. Et ça c'est très important parce qu'il était très critiqué, les résultats ne sont pas là. De toute façon en Allemagne, quand on connaît leur palmarès, c'est la victoire ou rien du tout. La période actuelle est très délicate, et là je parle pas des nouveaux maillots ou de changement d'équipementier, c'est aussi sportivement, ça ne va pas depuis la Coupe du Monde 2018. Et là on a le sentiment que la presse s'est rangée comme un seul homme derrière son sélectionneur, derrière son manager Rudi Völler aussi. La fédération veut le prolonger, et évidemment il joue un peu la montre, mais il y a quand même beaucoup de choses positives à tirer du match de hier soir.
Ouais, effectivement, le retour de Toni Kroos, t'en parles, c'est important. On l'a évoqué aussi un peu avec coach tout à l'heure quand on parlait de l'équipe de France. C'était controversé quand même, hein. Et on rappelle qu'il est sorti de sa retraite internationale 3 ans après. C'est Nagelsmann d'ailleurs qui est allé le chercher. Ouais. C'était quand même pas un retour gagné d'avance, hein, pour Toni Kroos en équipe nationale.
Mais ça c'est tout à fait exact. De toute façon, lui avait voulu partir aussi. Plus personne ne voulait de Toni Kroos parce qu'on estimait qu'il était beaucoup trop lent. Maintenant, on en discutait avec Roland hier soir. L'équipe de France a tout fait pour que Toni Kroos fasse un grand match hier soir, quand même. Personne ne lui a mis la pression.
Il était dans un petit fauteuil, ouais.
Personne ne lui a mis la pression. Il a pu trouver les espaces comme il voulait. Il a trouvé les interlignes comme il voulait. Et ce qui est intéressant, et encore une fois, je parle sous le contrôle de Roland hier soir, je pense que Nagelsmann, au-delà du fait d'avoir trouvé un nouveau schéma de jeu, a peut-être trouvé un schéma de jeu assez solide contre les grosses cylindrées, donc la France, l'Angleterre, l'Italie ou d'autres pays. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'avoir 7 joueurs qui ne sont pas forcément à vocation défensive, mais où il y a beaucoup de besogneux. Andrich, évidemment, qui est un joueur de 29 ans assez, et qui est là pour protéger Toni Kroos, mais qui est là aussi pour faire le Dreckarbeit, comme on dit en Allemagne, le sale boulot, en fait, hein, qu'il faut mettre les taquets quand il faut. Et de l'autre côté, on a Gundogan, qui est un peu, même s'il est capitaine, le grand perdant du 11 de hier, puisque lui aussi doit un peu plus travailler pour le collectif et non pas briller comme il peut le faire à Barcelone. Et puis on donne le ballon aux deux génies que sont Moussiala et Wirtz, et c'est à eux de faire exploser n'importe quelle défense. Mais la première rampe de lancement, évidemment, c'est Toni Kroos. C'était pas gagné. Maintenant, vous imaginez bien aujourd'hui, vu la performance qu'il a faite hier soir, que Toni Kroos est le sauveur de la nation.
Ah, ça remonte dans les sondages,
ouais. On va attendre un petit peu quand même les prochains matchs, et notamment le match contre les Pays-Bas, qui est un duel historique, évidemment, pour la nation allemande, mais enfin surtout pour les Pays-Bas. Mais c'est très intéressant de voir ce schéma-là, je trouve, en 4-3-2-1, qui rebat les cartes de la sélection. Il a fait aussi autre chose que j'ai oublié de vous dire. Il a remercié, en fait, les équipes qui fonctionnent bien en Bundesliga en ce moment, Leverkusen et Stuttgart.
Ouais,
et en fait, il n'y a plus de statut. Il a éliminé quasiment...
Dortmund disparaît quasiment totalement.
Mais toute la génération intermédiaire, les Kimmich qui se retrouvent à arrière droit et qui arrêtent de nous fatiguer à vouloir jouer en tant que milieu défensif, débat qui existe en Allemagne depuis 3-4 ans et tout ça, ce n'est plus cette génération intermédiaire qui a les clés du camion. C'est le vieux, excusez-moi de dire ça comme ça, Toni Kroos, et la nouvelle génération par Wirtz et Moussiala. Et je trouve ça assez intéressant, en tout cas à suivre.
Mais disons que bon, je suis d'accord. Comme d'habitude, hein, ou 9 fois sur 10 avec ce que tu nous expliques, je regarde toujours ce qui se passe, parce qu'évidemment, comme le passionné que je suis, ça m'intéresse. Et je pense que, à l'ancienne, Nagelsmann a maintenant son plan A, et ensuite son plan B, qui n'a pas pu et qui n'a pas eu la possibilité ni l'obligation de mettre hier. Je pense que d'un 4-3-2-1, son plan B, ça sera un 4-2-3-1 ou 4-4-2. Et là, ça sera pas facile non plus pour les autres équipes de se taper deux attaquants, par exemple Müller et l'autre comment
Füllkrug ou Havertz.
Donc ça, il y a 3 pour 2 postes et c'est 2 numéros 10 qui s'écarteront un petit peu sur chaque côté, et que tu n'auras plus que 2 milieux, et les 4 défenseurs, ils y seront toujours. Et en ce qui concerne les défenseurs, je regarde la façon de défendre des Allemands et notre façon à nous. Et je suis malheureusement désolé de constater qu'ils défendent mieux que nous.
Je voulais revenir sur Kroos aussi, ce qui vient d'être dit. Nous en France, on n'a jamais sous-estimé Kroos, et quand on le voit en Ligue des Champions avec le Real ou en championnat chaque semaine, on sait que Kroos est quand même l'un des meilleurs
milieux
du monde.
Mais Marion, excuse-moi de te couper, mais il y a des moments aussi psychologiques, et là. On ne peut pas le rater, ce moment. C'est que l'Allemagne, qui ne marche plus depuis plusieurs mois et plusieurs années, maintenant, chez eux, chez elles, il y a le championnat d'Europe. Donc tu récupères un Kroos qui sera en même temps comme un adjoint du staff et qui va être dans le vestiaire, et même s'il ne joue que 60 minutes, la présence de Kroos pour les Allemands et ces jeunes là qui sont talentueux, c'est une très très bonne idée.
Mais bien sûr, et je trouve que c'est absolument génial, mais simplement je pense que s'il était français, on n'aurait pas eu tous ces débats. On aurait su qu'il fallait le mettre absolument quand on est dans la meilleure équipe du monde ou l'une des meilleures comme le Real, et qu'on prouve tous les week-ends qu'on est quand même là, même si je sais ce qu'on va me dire, il y a peut-être de temps en temps une certaine lenteur, mais moi je veux bien cette lenteur là. On a bien vu hier soir qu'il n'y a pas un joueur de l'équipe de France, à part Mbappé qui est à son poste évidemment, qui a le niveau tout simplement de Kroos.
Pour la lenteur, je rectifie et je me permets de rectifier. Souvent j'ai entendu dire tel ou tel joueur, il est lent. Mais on mélange tout. Il y a une différence entre être lent de geste dans le gestuel et rapide du cerveau pour voir et pour
anticiper,
décider.
Je ne le critique pas du tout,
Donc ce joueur-là, oui, évidemment, à l'âge qu'il a, premièrement, je vais te dire aussi, peut-être ça sera difficile de faire plus que 60, 65 ou 70 minutes, on s'en fout, il y aura un remplacement, mais bon, quand je vois contrôle, passe, tac, tic, tac, alors évidemment, le gestuel, il est lent, mais la rapidité de réflexion et de décision, elle n'est pas là, va à 100 à l'heure.
Et c'est là que c'est très inquiétant pour l'équipe de France, si on fait juste simplement une comparaison.
Le petit parallèle, effectivement,
là, je ne vais pas être sévère de citer quelques noms de nos milieux, mais bon, quand je vois certains de nos milieux, contrôle, passe, réflexion, à droite, à gauche, et je la donne à 2 mètres à côté ou à 5 mètres derrière, je suis devant ma télé, je bouge ma tête de droite à gauche, mais je dis, mais c'est international, ça. Donc, et ça, je suis vraiment désolé, mais j'espère ne plus le voir souvent.
On va remercier Paulo Breitner d'avoir été avec nous. Merci Paulo, on te retrouve dès demain 20h dans l'After Drôle de Dame avec toutes les autres. On sera aussi avec Julien Laurent tout à l'heure, notre Drôle de Dame, pour nous parler un petit peu de l'Angleterre. 17h57, l'intégrale foot revient tout de suite sur RMC. Les invités qui vous attendent, Arthur Théâtre dans quelques instants, Olivier Dalloguy aussi, le coach de l'AS Saint-Etienne, et puis on parlera des espoirs aussi de Thierry Henry dans quelques instants. A tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Flora Moussi.
On est de retour dans l'Intégral Foot sur RMC avec Marion Hédalo, avec coach Courbis. On est longuement revenu sur la défaite très décevante hier de l'équipe de France face à l'Allemagne. 2-0 en match amical. On va prendre maintenant des nouvelles des espoirs. Deux jours après leur difficile victoire face à la Côte d'Ivoire, 3-2. Et à la veille de leur nouveau match amical face aux États-Unis, très important, car futur adversaire des Bleus aux Jeux Olympiques cet été. Le sélectionneur Thierry Henry était en conférence de presse il y a quelques minutes et Patrick Muller a suivi tout ça pour RMC. Salut Patrick.
Salut Flora, salut tout le monde.
Alors raconte-nous un petit peu ce qu'il s'est passé aujourd'hui avec Thierry Henry, en conférence de presse.
Effectivement, déjà premier point, tu as raison de le rappeler, ce sera un adversaire pour l'équipe de France dans ce groupe A aux Jeux Olympiques, en compagnie, je parle des États-Unis bien sûr, en compagnie de la Nouvelle-Zélande et d'une équipe qui reste à déterminer. Et c'est tout simplement le dernier match avant cette échéance estivale et avant la publication de la liste qui aura lieu mi-mai. Et Thierry Henry, un petit peu embêté par les absences, celles peut-être à venir, celles peut-être encore à confirmer dans les prochaines heures. Il y a eu dans un premier temps, en amont de ce rassemblement, les absences notamment de Chotard et de Malo Gusto. Il y a eu la blessure, bien sûr, de Barcola à l'occasion de cette victoire un petit peu poussive, en tout cas dans la difficulté face à la Côte d'Ivoire. Et ces dernières heures, entre hier et ce matin même, eh bien, Thierry Henry déplore les absences peut-être potentielles pour cause de maladie de Lenny Yoro, le Lillois, et d'Enzo Mio, le joueur de Stuttgart. Ça fait beaucoup d'incertitudes pour ce match qui, encore une fois, sera le dernier avant les Jeux Olympiques face à une équipe des États-Unis que Thierry Henry évidemment connaît très très bien, lui qui a évolué en MLS et qui a envie d'affronter cette équipe avec sa fraîcheur et son allant.
On va l'écouter justement, Thierry Henry, le sélectionneur des Bleuets, sur les absents à venir pour les Bleuets.
Préparation un peu difficile. Vous savez très bien qu'on a perdu Chotard, on a perdu Ruther. Vous savez ce qui s'est passé avec Malo, Barco. Lenny est tombé malade hier soir, Enzo Mio ce matin. C'est pas évident parce que tu te retrouves dans une situation où on joue demain. Si tu veux appeler du monde, ils sont tous en week-end puisque les clubs ont laissé. Donc tu fais quoi? Tu rappelles, tu essaies de voir si des joueurs vont peut-être doubler. Doubler, pas évident. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, ça arrivait hier soir et ce matin. Donc on a essayé d'appeler 2-3 personnes sans citer de nom. Et bien sûr, c'est en week-end. Ça s'est pas entraîné pendant 2-3 jours. On va pas prendre de risques aussi à ce niveau-là. Voilà, il y a pas mal de choses à gérer. Penser à comment on va jouer contre cette équipe aussi des États-Unis qui est pas facile à manœuvrer. J'ai joué en MLS, j'ai coaché en MLS. Donc je sais que c'est pas une équipe évidente à gérer, croyez-moi.
Ouais, on sent encore un petit peu agacé par toutes ces absences et les exigences des clubs coach, forcément. Et c'est toujours le conflit entre les sélectionneurs d'un côté et les entraîneurs de club de l'autre. Il était déjà agacé après le match contre la Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu ce changement de système tactique qu'il a lui-même voulu. Il s'en est voulu après d'avoir changé de système. Il en a longuement parlé en conférence de presse. On sent que la préparation des Bleuets en vue de ces JO, c'est pas la plus simple quand même, coach.
Mais en plus de ça, on se retrouve, comme on en parlait, pour d'autres problèmes, avec des joueurs qui jouent beaucoup. Donc on est
tous
maintenant fin mars, bientôt début avril. Tu as l'organisme qui a quand même fait beaucoup d'efforts, donc qui est des blessures, c'est malheureusement le cas, mais c'est le contraire qui devrait nous surprendre. Ça fait partie de la période que nous sommes en train de traverser.
Ouais, et puis Marion, il faut aussi préciser qu'évidemment cette équipe des Bleus prépare, donc on en a parlé, les Jeux Olympiques, mais que cette équipe-là, c'est pas forcément celle qui ira aux JO, parce qu'il y a trois joueurs, donc les quotas de plus de 23 ans, qui doivent venir s'ajouter à cette équipe. On ne sait pas encore qui, évidemment, les noms de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann.
Savanier, là, il va peut-être.
Peut-être que tu peux envoyer Tijs Savanier aux JO.
Peut-être il va nous donner des regrets.
Absolument.
En tout cas, on parle plus d'Mbappé, Griezmann ou encore Olivier Giroud, mais vont-ils être libérés aussi par leur club? C'est un autre débat. Donc du coup, Thierry Henry
prépare une équipe, mais qui est pas forcément celle qui va aller plus tard au JO. Donc c'est quand même très compliqué.
Ouais, c'est pas pratique pour trouver des automatismes. Voilà, je te l'accorde. Effectivement, c'est même impossible. Moi, je pense que vraiment la tâche de Thierry Henry est un c'est un poste qui est hyper compliqué. Je vois pas bien comment il peut réussir ça. Je le dis clairement. Je peut-être que je prends des risques déjà de pronostiquer ça, mais je trouve que d'abord c'est d'abord un coach qui est pas connu pour caresser dans le sens du poil ses joueurs. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de psychologie. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il avait été viré de Monaco, où il avait fait quand même très très peu de temps. Donc je sais pas s'il aura lui aussi la on sent déjà de l'agacement, ce que je comprends tout à fait. Les clubs ne jouent absolument pas le jeu. On voit bien que les clubs espagnols en gros les JO on s'en fout complètement, vous êtes bien gentils, voilà. Nous on veut parce que c'est à Paris, parce que c'est important pour nous, parce que c'est en France, mais j'ai bien peur que ces JO que nous voulions un peu plus football, finalement restent comme les JO des précédentes, c'est-à-dire avec très peu de joueurs entre guillemets au niveau. J'aime pas dire ça comme ça, mais c'est ça la difficulté pour Thierry Henry.
Patrick Mullin, est-ce qu'il en a parlé justement encore une fois de ces Jeux Olympiques et de cette préparation du groupe compliqué pour lui, Thierry Henry?
Oui, bien sûr. C'est un petit peu dans le prolongement de ce que vous venez d'évoquer, hein, ces difficultés pour négocier de gré à gré avec les fédérations, puisque cette épreuve des Jeux Olympiques ne figure pas au calendrier FIFA et que par conséquent les clubs n'ont pas l'obligation de libérer les joueurs, s'agissant des trois joueurs de plus de 23 ans. Mais il a quand même, c'est pas pour relativiser la portée du match de demain et son intérêt, mais il a quand même fixer une espèce de feuille de route qui consiste à dire que pour être dans cette liste et dans ce cut qui sera rendu public mi-mai, il y aura bien sûr les performances que les différents joueurs pourront avoir demain, celles qui ont eu lieu aussi contre la Côte d'Ivoire. On pense bien sûr à Ryan Cherki, mais il y a peu de doute sur le fait que ce joueur est intéressant, bien sûr, pour Thierry Henry. Mais voilà, il a insisté aussi sur le fait que les performances d'ici la fin de saison conditionneront aussi évidemment la présence des uns et des autres dans ce groupe. Et bien sûr, il y a ce paramètre qui reste à définir, c'est qui pourra être libéré s'agissant des joueurs âgés de plus de 23 ans, qui va jouer le jeu. Voilà, c'est une vraie problématique pour Thierry Henry. Je me suis risqué pour l'anecdote à lui poser la question du changement de système et un retour à ce 4-3-1-2. Bon, j'ai pris un next en guise de réponse. Voilà.
T'as tenté au moins.
C'est logique,
Patrick.
C'était logique. Ouais.
Coach, et peut-être dernière les épaules.
Oui, non, mais ça me paraît être une évidence que la situation est compliquée. Donc, à partir du moment où tu as quand même la possibilité et le feu vert de prendre qui tu veux, avec un règlement.
Qui est capable d'être libéré à ce moment-là aussi? Parce que qui veut, c'est encore autre chose que ce qui est possible.
Eh bien, on verra quand Thierry Henry demandera un joueur et que ça lui sera refusé.
Ah ça commence déjà là.
Ouais. Ah
ça commence déjà quand un club comme le
Real.
Ils ne sont pas là
pour la préparation. Ces joueurs-là en question. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas là. Donc comment on prépare ce groupe-là sans ces joueurs clés?
Eh bien, ok. Mais il y a des joueurs qui ne dépassent pas justement ces trois joueurs. Les trois joueurs, c'est-à-dire ceux qui dépassent l'âge
autorisé,
23 ans. Ok, il y aura une liste certainement d'une dizaine de joueurs. Et après, il y aura des choix à faire. Mais pour le reste, les joueurs seront contents d'être sélectionnés. Ceux qui dépasseront pas les 23 ans.
Mais c'est que la préparation du groupe n'est pas la même quand tu rajoutes trois autres joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer avec les Bleuets normalement sélectionnés. Tu vois ce que je veux dire? Tu ajoutes trois joueurs qui ne sont pas habituellement dans le groupe. On va continuer d'en parler, mais juste, on va au meeting de Saint-Germain-en-Laye et de la natation, évidemment. L'élite de la natation française est présente en ce moment. On va retrouver avec Morgane Maury, parce que Morgane, c'est dans quelques instants la grande finale du 100 mètres avec notamment Maxime Grousset et Florent Manodou. Salut Morgane.
Oui, salut à tous. Là, il y a des requins. Attention, Maxime Grousset, champion du monde du 100 mètres papillon. Florent Manodou, plutôt spécialiste du 50 mètres nage libre. Il a déjà été médaille olympique, un triple médaille olympique, champion olympique à Londres. Mais il y a quelques années, il faisait souvent l'aller-retour sur le 100 mètres nage libre. Il a déjà été champion d'Europe sur cette distance, mais maintenant, il la délaisse. Il privilégie le 50 mètres nage libre en vue des Jeux Olympiques pour essayer de claquer une quatrième médaille olympique sur cette distance. Il sera au couloir numéro 5, Florent Manodou. dans son jammer, dans son Bermuda vert fluo. À sa droite, Maxime Grousset, ligne d'eau numéro 4, qui a été battu tout à l'heure sur 50 mètres papillon. Il a nagé en 48 secondes 39 centièmes le week-end dernier à Nice. Il espère faire descendre le chrono, passer pourquoi pas sous la barrière des 48 secondes. On va baisser la voix dans un instant. Ça va être le départ de cette grande finale du 100 mètres nage libre, la dernière de ce Giant Open. Maxime Grousset face à Florent Manodou, trois Brésiliens également dans cette finale. Chérigrini, Correa et Alcara pour essayer de damer le pion aux Français. C'est les garçons mis les mains sur les plots, la position de départ, le pied vers l'arrière posé sur la plaque qui relevait. Et prenez vos marques, clamez le speaker et c'est parti. Vous l'avez entendu le bip pour cet aller-retour, un peu moins de 50 secondes de course. La sortie de nage, très bon départ de Florent Manodou qui est sorti pile au niveau de la marque des 15 mètres. À sa droite, Maxime Grousset est en train de produire son effort. C'est parti fort aussi à la une avec le Français Guillaume Gut dans un instant. Les 15 derniers mètres de cette première longueur, on va connaître l'identité du nageur qui vient en tête. Florent Manodou, Maxime Grousset qui sont pratiquement côte à côte. Mais c'est Florent Manodou qui vient en tête. Troisième position pour Maxime Grousset, la deuxième pour le Brésilien Chérigini. C'est l'aller-retour, déjà 20 mètres de parcouru sur cet aller-retour. C'est Maxime Grousset qui est en train de prendre les commandes, de passer devant Florent Manodou à sa gauche. Chérigini résiste fort. C'est Maxime Grousset qui est en tête d'une petite main devant Chérigini. Florent Manodou est en train de lâcher l'affaire et rétrograde en quatrième, cinquième position. C'est Maxime Grousset qui va s'imposer le chrono dans un instant. À la touche, Maxime Grousset, 49-02. C'est moins bon que la semaine dernière à Nice. C'est une période de travail, il faut le rappeler, pour les nageurs. Deuxième position pour Chérigini, cinquième position pour Florent Manodou en 49 secondes et 76 centièmes. Les nageurs qui ne sont pas rasés, qui sont en travail. Rendez-vous au mois de juin pour les championnats de France qui sont qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Victoire donc de Maxime Grousset en 49 secondes et 2 centièmes dans ce 100 mètres nage libre. Cinquième position pour Florent Manodou.
Merci beaucoup Morgane Maury.
Salut Morgane.
On va remercier aussi Patrick Muller qui est avec nous pour
avec
nous
plaisir.
Parler des espoirs qu'on retrouvera donc demain soir pour ce match amical encore face aux États-Unis. 18h12 bientôt sur RMC. On revient dans quelques instants avec un invité de marque dans l'intégral foot, Arthur Théâtre, l'international belge du Stade Rennais. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
18h14, on est de retour sur RMC dans l'Intégral Foot avec Marion Hédalo, avec coach Courbis. On continue d'évoquer les favoris pour le prochain Euro qui débute dans 3 mois maintenant. On a parlé de l'équipe de France, de l'Allemagne, le pays hôte. On parlera de l'Angleterre aussi dans quelques instants. Mais d'abord, évoquons la Belgique avec un invité de marque, l'international des Diables Rouges et défenseur du Stade Rennais, Arthur Théâtre. Bonjour Arthur, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors déjà, j'ai envie de vous demander comment vous allez, parce que vous n'avez pas joué hier face à l'Irlande en amical 0-0 hein, pour la Belgique, et vous n'étiez pas dans le groupe Rennais lors du dernier match face à Marseille. Alors comment ça va ?
Ça va bien, ça va très bien, on va dire. J'ai eu un petit peu peur face au match contre Lille, où là-bas je suis sorti sur blessure vers la 60e minute. J'avais senti un petit truc dans les ischios et voilà. Puis le club m'a bien, on va dire, retapé. On avait essayé de tout faire pour que je joue contre Marseille parce que c'était un match très très important pour nous, qui s'est au final très bien déroulé. Mais j'étais encore un peu juste, et pareil pour le match de l'Irlande, on a préféré prendre aucun risque. Et là, voilà, j'ai repris l'entraînement collectif à 100% et je me sens très bien, donc tant mieux.
La blessure, c'est quoi ? C'est une légère élongation à un endroit que, même quand on a plus mal, on ne sait jamais si on est guéri.
C'est vrai, c'est ça. Dans l'ischio, bon, c'est toujours.
On l'a vu avec ton coéquipier, le fait. Donc, il a une petite alerte. Allez, 15 jours après, on dit, bon, ça va, c'est bon. Et puis, tac, au bout de 3 minutes à Sochaux. Et le fait, pourquoi je t'en parle ? Parce que. On est en train, nous aussi, d'avoir le plaisir de parler avec toi, mais de parler aussi de notre équipe de France avec des joueurs pour créer un petit peu certaines choses. On n'est pas terrible. Et donc, un garçon comme le fait, pour moi, aura son mot à dire dans les mois à venir.
Je pense aussi. Alors, en tout cas, il a toutes les capacités pour. Il a l'intelligence de jeu et puis c'est une personne qui monte en puissance. Après, dommage, sa petite voire grosse blessure qu'il a eue. Mais là, maintenant, il va revenir fort et nous, on compte énormément sur lui. Après, moi, s'il peut être en équipe de France, ce serait magnifique.
On va revenir à vous, Arthur. Vous me disiez que ça va mieux, que vous avez repris l'entraînement. Du coup, on doit s'attendre à vous voir être titulaire mardi soir pour le gros choc hein, face à l'Angleterre.
Ouais. Bah après, le coach fait ses choix, hein, mais moi, j'espère. J'espère. Normalement, je suis prêt. Donc voilà, ça reste un match de prestige, un match, on va dire, énorme à Wembley. Donc Donc c'est magnifique. J'espère que je pourrai être de la partie à 100%.
Et la question aussi, c'est de savoir à quel poste, parce qu'avec la Belgique, vous n'êtes plus défenseur central, hein, vous êtes plutôt latéral gauche. Comment vous vivez cette acclimatation à un nouveau poste?
Je le vis bien. Après, c'est bon pour la sélection comme un club. On me dirait même de jouer excentré droit ou attaquant de pointe. Je le ferai parce que c'est comme ça. On est fait pour ça. Mais après, je me sens bien à ce poste. J'y étais formé pas mal d'années. En pro, j'y avais jamais joué. Et là ici le coach me donne des directives qui sont claires et qui sont précises, et ça pour moi c'est important. Un poste qu'on connaît un peu moins en professionnel, il faut pas, je pense, se prendre la tête ni se compliquer la tâche. Il faut faire ce qu'on sait faire et respecter les consignes, et puis ça se passe bien, surtout quand j'ai des très bons joueurs à côté de moi.
Votre groupe à l'Euro, si je ne me trompe pas, c'est Slovaquie, Roumanie et soit Islande, soit Ukraine. Sans vouloir hypothéquer le futur, c'est quand même un groupe assez possible, enfin
abordable.
Abordable. Merci Flora. Abordable.
Oui, après c'est clair, on a évité certains gros. Je pense que la France a un groupe difficile. Maintenant, nous, ça va être le challenge de pouvoir passer ces poules, on va dire de la meilleure des manières possibles. Même si dans un grand tournoi, on sait toujours quand on est outsider ou il y a des équipes, elles vont tout donner, elles ont plutôt rien à perdre, et ça c'est pas facile non plus. Après, c'est clair que voilà, on a eu un tirage qui va un peu plus dans notre faveur avec l'équipe qu'on a, mais voilà, il faut respecter toutes les équipes parce que dans un grand tournoi, c'est pas facile.
On est avec Arthur Théâtre, l'international belge du Stade Rennais, dans l'intégral foot sur RMC. On parle là de disputer un championnat d'Europe comme titulaire avec votre sélection nationale. Vous avez vécu une Coupe du Monde, j'en ai parlé, de la Coupe d'Europe en club. Est-ce que vous réalisez tout ça alors qu'il y a à peine 4 ans, vous étiez au chômage, sans club, le parcours que vous avez réussi à faire jusque-là?
Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais pas me plaindre, hein. C'est clair, c'est des rêves de gosse, comme on dit, qui se réalisent. Après, il y a énormément de travail derrière. Voilà, je remercie ma famille, mes parents. Je leur fais un gros bisou si nous écoutent, parce que sans eux, tout ça aurait pas été possible. Ils ont toujours cru en moi. J'ai toujours cru en moi. Après, c'est clair qu'il y a des hauts et des bas, et puis c'est là qu'on voit la réelle qualité des gens surmonter ces épreuves. Donc mais bon, on a encore un bon bout de chemin à parcourir. Il faut continuer à travailler. J'ai encore énormément de choses à apprendre et de beaux moments à vivre, je l'espère, donc que ce soit avec la sélection ou en club. Mais c'est clair que je suis fier de mon parcours, mais voilà, il y a encore pas mal d'années.
Et justement, il y a des fois des petits trucs qu'on sait pas par où et d'où ils arrivent. Quand tu te retrouves il y a 4 ans au chômage, ce qui est pour moi, je dirais pas une injustice, mais une anomalie,
c'est une hérésie,
c'est du gaspillage, c'est tout ce que tu veux, mais ça fait partie des choses de la vie. C'est quoi qui a fait qu'est-ce qui a pu se passer, un petit détail? Tu as fait quoi, un match amical pour t'amuser, tu as été remarqué par un recruteur?
Non.
Ça s'est passé comment?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis au chômage, il y a le Covid qui arrive juste après. Donc on est tous confinés, il y a rien à faire. Et puis bon, moi je serais à ce moment-là, c'est vrai que il faut pas se voiler la face. Je sentais que ça devenait compliqué, ou en tout cas on me faisait pas confiance, parce que mes performances, j'ai jamais été, je vais pas non plus mentir en me disant ok, je suis pas fait pour ça, je pense que ça va pas passer. Non, j'ai toujours cru et je pense que j'ai toujours bien joué, on va dire. Mais après, comme vous le savez, dans des clubs, des fois il y a des politiques ou des choses qui font que ça passait pas. Donc il y a le confinement. Après ça, donc pendant le confinement, je me dis, j'ai un déclic où je dis à mes parents, je vais m'entraîner comme un fou, et puis s'il y a un club qui aura besoin peut-être d'un joueur, parce que bon, il y avait des grosses pertes financières après le Covid, il a besoin de même des essais ou des choses comme ça, ben j'irai. Et le confinement se termine, je me retrouve à faire un essai dans une équipe de troisième division, deuxième division, troisième division. Et après 2 jours, ils disent ouais non, ça va pas le faire, etc. Bah, je dis ok, pas de souci. Je fais un deuxième, eux ils me disent pareil, ça va pas trop. Et là je dis à mon père, je dis bon, je pense ça le fait pas trop, on verra ce qui va arriver, mais bon, je vais peut-être aller travailler. Et là, il y a un jour, mon agent qui m'appelle et qui dit, bah écoute, il y a un club de première division, ils ont plus beaucoup d'argent, il leur faut absolument des joueurs. Ils avaient plus que, je pense, 6 joueurs sous contrat. Donc ils veulent bien que tu ailles faire un essai. Après deux jours, ben, j'ai rencontré le coach Blessin qui après deux jours m'a dit ben voilà, tu pars plus jamais, on va te donner un contrat. Et y a aussi un peu de chance là-dedans parce qu'ils signent deux autres défenseurs centraux le jour après que j'ai signé. Donc là, je me dis, mais non, ça va pas recommencer quand même. je vais de nouveau plus jouer. Et dans, ben, comme on dit souvent, le malheur des uns, des fois, fait le bonheur des autres. C'est triste, mais c'est un peu la réalité. Les deux joueurs qui signent se blessent après une semaine d'entraînement. Je débute le championnat et j'ai jamais quitté l'équipe. Et voilà.
Ouais, à quoi ça tient effectivement une carrière. On est avec Arthur Théâtre sur RMC dans l'Intégral Foot, l'international belge du Stade Rennais. Justement, on va parler un petit peu de Rennes maintenant. On sent que le club clairement a écrit son histoire européenne ces dernières saisons, hein, en s'offrant des campagnes mémorables. On s'en rappelle tous, que ce soit cette confrontation face au Milan cette saison, la découverte de la Ligue des Champions aussi en 2020, ou la première année jusqu'en huitième de finale d'Europa League face à Arsenal. Vous avez ressenti tout ça, cette histoire européenne qui se construisait quand vous êtes arrivé au club il y a un an et demi?
Oui, tout à fait. C'est un club où, quand je suis arrivé, on m'a directement, on va dire, posé les bases en expliquant c'était quoi le projet, le souhait du club à court, à moyen et à long terme. Donc il est clair que le Stade Rennais, pour moi, est un club qui doit jouer la Coupe d'Europe chaque année. Bon, malheureusement, sur les deux dernières saisons auxquelles j'ai participé, je pense qu'on méritait, ou on devait en tout cas, on se devait de faire mieux. Ok, contre Milan, on va dire, on est tombé contre un gros morceau. On a été là-bas, je pense, à mon sens, un peu trop heureux. On a été là-bas, on a joué, je pense...
La découverte de San Siro aussi, c'est pas, ouais, mais bon, anodin.
Je pense que le fait de tomber contre Milan, c'est un plaisir d'un certain côté.
Tout à fait.
Ça vient aussi d'un but ou d'un penalty raté contre Villarreal et pas la possibilité de terminer premier du groupe, parce que je pense que l'adversaire aurait
été... C'est clair. Il y a eu énormément de facteurs. Ouais, non, c'est sûr, il y a eu énormément de facteurs, ça c'est clair. Après, ça fait partie du football, donc du moment où on n'a pas réussi à peut-être mettre ce but en plus, ou justement pas l'encaisser, ça veut dire qu'on est où on doit être. On devait jouer le barrage. Si on est tombé contre Milan, bah ça c'est le tirage au sort. Après, c'est des moments magnifiques, hein, les jouer à San Siro en Coupe d'Europe et les recevoir chez nous, c'est sûr que c'était du bonheur. Mais bon, après, j'avais pas spécialement envie de m'arrêter là. Et l'année dernière, bah où on se plante, hein, contre le Shakhtar, là c'est pour moi, ça voilà, ça c'était surtout, je pense, la défaite qui m'a fait le plus mal peut-être au Stade Rennais.
L'objectif, c'est évidemment de retrouver l'Europe la saison prochaine. Vous êtes, alors on se parle, à trois longueurs de la sixième place de Lens que vous allez affronter d'ailleurs d'ici la fin de saison. Il y aura d'autres confrontations aussi face à Monaco, Brest également. Va falloir rien lâcher jusqu'au bout. On sent que cette saison de Ligue 1, tout est très serré pour les places européennes.
Ouais, il y a vraiment très peu de places ou très peu de points qui séparent le milieu de classement au haut du classement quand on regarde comme ça. On a perdu des points. Bon, on a fait un début de saison qui était pas du tout au niveau. Il faut pas non plus voiler la face. C'était vraiment pas bon. On fait une deuxième, on va dire, énorme partie de saison parce qu'on revient vraiment de loin. Et là, ce qui fait aussi mal, c'est bon contre Lorient où on perd ce match où c'est complètement de notre faute alors qu'on enchaînait énormément de victoires. Après, on a su réagir contre Marseille. Donc voilà.
Même match nul regrettable quand même. Donc 96e minute au Parc, tu perds deux points. Et ensuite contre Lille, tu mènes 2-0. Il y a ta sortie qui évidemment désorganise un petit peu l'équipe et perdre ses 4 points en 2 matchs. Oui, ok, il y a l'accident contre Lorient, mais l'accident contre Lorient, bah allez, du côté de Rennes, on pouvait s'en foutre s'il y avait eu 4 points de plus.
Je suis d'accord. Après, c'est pas une critique, mais on nous enlève quand même, deux points au Parc. Hein. Il faut pas se mentir. Il y a penalty, il siffle penalty. Pour moi, c'est clair. Il y a pas penalty. Après, je vais toujours prêcher pour ma paroisse, mais voilà.
On va peut-être essayer d'oublier deux secondes l'arbitrage. Hein, je suis désolée, mais je voulais savoir, Arthur, justement, comment vous expliquez justement cette irrégularité de beaucoup de clubs en Ligue 1? Et notamment pour Rennes.
Je pense c'est certain qu'il y a une part d'irrégularité, mais je pense aussi que le championnat a aussi un niveau global où toutes les équipes peuvent se mettre en difficulté l'une et l'autre. Donc d'une première part, je pense que c'est ça. Là, on va arriver aussi à un moment charnière de la saison, où on est dans un moment charnière où les équipes du bas de classement vont jouer le couteau entre les dents pour pas descendre, et les équipes du haut de classement vont tout donner pour aller pour aller à chercher les places européennes. Donc là, cette saison, il y a tout le monde qui a encore quelque chose à jouer. Parce que ceux qui sont au milieu de classement bas peuvent peut-être encore potentiellement descendre. Et ceux qui sont au milieu de classement haut peuvent aussi aller chercher des places européennes. Donc c'est là que tous les matchs se jouent à fond. Et il y a eu, à part peut-être Paris et Brest qui tiennent bien la cadence. Toutes les autres équipes ont perdu des points contre des concurrents directs. C'est peut-être dû à ça aussi.
Une dernière question avec vous, Arthur. Forcément, votre parcours, vos performances aussi aujourd'hui, ça attire l'œil de grands clubs européens. Vous me voyez venir évidemment pour la saison prochaine. Votre avenir à vous, Arthur, est-ce qu'il sera à Rennes la saison prochaine ou vous avez peut-être aussi d'autres ambitions ?
C'est pas une question que je me suis honnêtement réellement posée là maintenant de suite parce que il y a un championnat d'Europe qui arrive, on en a discuté, il y a une fin de saison hyper importante. Il y a eu en janvier des discussions et en été déjà dernier où j'avais comme clair souhait de avec le club bien évidemment de poursuivre une deuxième saison à fond avec le maximum de temps de jeu en ayant les meilleures performances possibles et de me stabiliser dans ma vie privée parce que j'étais parti donc que ce soit en Belgique, en Italie et puis en France, j'avais pas spécialement envie encore de déménager parce que ça prend énormément d'énergie et j'avais besoin de ça. C'est chose faite. Maintenant, je me suis pas spécialement posé la question, par rapport à l'année prochaine. Mais je suis heureux au Stade Rennais. Le club est en train continue de grandir. Donc, si je peux faire partie de ce projet à long terme, pourquoi pas. Mais on peut jamais prédire l'avenir.
Merci beaucoup Arthur Théâtre d'avoir été avec nous.
Bravo pour tout ce que tu fais.
Ouais.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Bonne chance pour la suite de la saison avec Rennes et puis avec la Belgique aussi, avec le grand rendez-vous mardi soir face à l'Angleterre.
Merci beaucoup, au revoir.
18h28 sur AMC, un grand merci encore à Arthur Théâtre, c'était très sympa de l'avoir avec nous. Coach Courbis est toujours là, Marion Dallot aussi, on revient dans quelques instants dans l'intégrale foot, on va parler de l'Angleterre cette fois-ci qui a vacillé aussi face au Brésil cette semaine. A tout de suite sur AMC.
RMC, Intégrale Foot.
Flora Moussi.
De retour dans l'Intégrale Foot sur RMC avec Marion Dallot, avec Coach Courbis. Il est 18h32. On est à moins de 3 mois du début de l'Euro maintenant. Ce sera le 14 juin pour le match d'ouverture de l'Allemagne face à l'Écosse. L'Allemagne vainqueur de l'équipe de France hier 2-0. On en a parlé alors qu'un peu plus tôt dans l'autre choc du jour, le Brésil a fait tomber l'Angleterre à Wembley. De quoi mettre sur les dents notre drôle de dame anglaise, Julien Laurence. Salut Julien.
Salut Flora, salut à tous.
Victoire 1-0 du Brésil hier. Est-ce que l'euphorie autour de cette équipe anglaise, considérée comme beaucoup comme le grand favori du prochain Euro, est un peu retombée du coup? Parce que surtout qu'il y avait ce nul aussi face à la Macédoine du Nord juste avant, qui faisait déjà un petit peu tâche.
Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'était pas très en forme les Anglais, et c'est vrai que ça a un peu refroidi tout le monde quand même. Vu l'élan d'optimisme, on va dire, autour de la sélection, ils n'ont plus perdu à Wembley par exemple depuis 21 rencontres, et avec les Brésiliens qui eux-mêmes étaient encore en moins bonne forme puisqu'ils n'avaient pas gagné un seul de leurs 4 derniers matchs, 3 défaites consécutives pour avant cette rencontre d'hier soir, et voir comment les Brésiliens surtout ont finalement battu et dominé cette équipe d'Angleterre, c'est ça qui a le plus surpris, même malgré les absences, Saka, Kane notamment côté anglais. Il y avait aussi beaucoup d'absents côté brésilien d'ailleurs, ni Ederson, ni Alisson, ni Marquinhos, juste pour citer que trois noms. C'est vrai que les Anglais ont été très décevants avec le ballon, sans ballon aussi. J'ai trouvé qu'ils auraient pu perdre 3-0 ou 4-0 du 1-0 et du but d'Hendrick en fin de match. Pas mal de problèmes dans les performances individuelles, comme Harry Maguire, ce qui est pas nouveau, bien sûr, comme un Oli Watkins qui jouait assez gros en pointe, parce qu'on sait que derrière Kane, ce sera soit lui, soit Ivan Toney qui ira à l'Euro, et c'était l'occasion pour Watkins de marquer des points. Il a quasiment été jamais servi. Foden, par exemple, on en parlait hier soir avec le coach, mais Foden, la stat qui tue pour moi et qui finalement est très significative, c'est qu'il a touché aucun ballon dans la surface brésilienne pendant les 90 minutes qu'il a passé sur le terrain. Donc en fait, un de tes meilleurs joueurs,
alors que c'est l'homme en forme, finalement, bah ouais.
Voilà, l'homme en forme n'est pas dans la zone qui compte. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes individuellement et collectivement aussi d'une équipe qui, malgré les absences, encore une fois, c'est vrai, il faut le reconnaître, n'a pas très bien fonctionné hier soir.
On va parler de quelques joueurs, peut-être du sélectionneur aussi, mais moi j'avais une question, Julien, je ne sais pas si c'est un débat qui existe ou pas en Angleterre, mais moi je me suis posé la question quand je vois cette équipe anglaise et la composition choisie, le schéma tactique choisi par Gareth Southgate, est-ce que tout n'est pas trop orienté finalement autour de Jude Bellingham? Est-ce que le système choisi n'est pas fait justement pour le mettre dans les meilleures dispositions, quitte parfois à déséquilibrer un petit peu le reste de l'équipe et à ne pas choisir forcément le meilleur schéma tactique pour son équipe?
Ouais, je ne sais pas, alors hier il était un peu plus haut parce que je pense par rapport à la saison qu'il fait au Real Madrid dans un rôle de numéro 10 qui dans ce système-là avec Carlo Ancelotti fonctionne très bien et lui convient très bien aussi. Je pense qu'avec les Anglais c'est pas la même chose. Je sais pas si tout est construit autour de lui, puisque justement les Anglais trouvent que c'est pas assez le cas et que Southgate qui est très conservateur, vous savez, j'en parle assez du Sylvain Ripoll anglais, qui a justement du mal à mettre. Non mais c'est vrai, un des problèmes et une des faiblesses qu'il a, c'est de pas assez mettre, je trouve, ces joueurs clés, ces joueurs leaders dans les meilleures conditions finalement dans les rencontres. Donc soit hors de position, soit pas dans une structure offensive ou défensive. D'ailleurs, ça marche aussi pour les défenseurs, qui peut leur permettre justement d'influencer une rencontre, de pouvoir donner le meilleur. Et on va revenir au cas Phil Foden, bien sûr, qui pour moi c'est incompréhensible que l'un de tes meilleurs joueurs, si ce n'est ton meilleur joueur actuel, le plus en forme, n'ait aucun impact finalement dans la zone de vérité qui est la surface adverse, par exemple. Donc c'est une des critiques de Southgate. Je pense qu'il sait pas quoi faire, sincèrement, tactiquement, je l'ai toujours dit, que pour moi c'était le gros problème. Voilà, il était limité, donc je pense qu'il sait pas quoi faire de tout le talent qu'il a à sa disposition.
C'est quand même malheureux. Et problème de riche, Marion. Hein.
Oh, problème de riche, absolument. Non, mais ce que je te disais tout à l'heure hors antenne, je me demande quand même s'il ne faudrait pas un sélectionneur d'une autre nation que l'Angleterre. Alors, je sais qu'on est souvent assez conservateur, un sélectionneur français pour la France, un sélectionneur brésilien pour le Brésil. Mais je trouve aussi que ça peut aussi être une réussite de regarder un petit peu ailleurs en Europe, parce qu'il n'y a que des stars quand même dans cette équipe anglaise. C'est une équipe qui devrait faire peur au monde entier, en tout cas à l'Europe entière, et ça n'est pas le cas. Il y a une autre chose quand même. Hein. Tout à l'heure, on a dit que la France se gardait pour la Ligue des Champions, qu'il y a beaucoup de joueurs internationaux qui jouent la Ligue des Champions. Mais là, c'est exactement la même chose quand même. Hein,
Pour
l'Angleterre, moi je sais pas si effectivement Phil Foden effectivement n'était peut-être pas dans les meilleures dispositions, mais n'oublions pas quand même qu'il joue pour City et qu'il a des très très gros matchs qui arrivent, notamment le match contre le Real. Donc c'est une préparation particulière et j'ai presque envie de dire que ces matchs amicaux non pas tombe mal, mais ne nous donne peut-être pas totalement une vision juste.
Ouais,
absolument.
Coach, la position de Gareth Southgate pour toi, est-ce qu'il faudrait changer pour les Anglais, trouver un autre sélectionneur anglais ou étranger?
Si, qu'est-ce que tu en penses? C'est la bonne solution, c'est pas maintenant.
Ouais.
Donc à partir du moment où ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant, c'est pas parce que dans une coupure au mois de mars, ou quand on regarde, c'était quand même très compliqué pour les grandes nations de gagner à la maison. Ouais. Hein. Donc on va voir aussi les matchs de mardi, mais le changer maintenant en lui disant quoi? Que les résultats ils sont pas bons, qu'on vient de perdre à domicile le 22e match à Wembley, c'est quand même compliqué. Par contre, que après cet Euro, en fonction de ce que va faire l'Angleterre à l'Euro, c'est vrai qu'on pourrait quand même réfléchir à autre chose.
Bah, si on se pose la question,
maintenant, ça arrivera pas.
Non, c'est sûr que ça arrivera pas, Julien. Mais c'est vrai que quand on voit la génération aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tellement de fois dit ça sur l'Angleterre aussi. Cette génération doit gagner quelque chose, n'a jamais rien gagné finalement. Donc effectivement, peut-être que le choix aurait été de le faire plus tôt. Mais est-ce que le fond de jeu quand même est critiqué en Angleterre de Gareth Southgate?
Oui, bien sûr, les limites tactiques dont on a parlé tout à l'heure est un des axes les plus critiques envers lui. Les résultats, alors bien sûr, ils ont les meilleurs résultats de leur histoire à part 66. Donc effectivement, forcément, c'est une finale d'Euro à domicile qu'ils auraient dû gagner mais qu'ils ont perdu au final au tir au but, une demi-finale de Coupe du Monde en 2018 contre les Croates qui va en prolongation. Donc oui, au niveau des résultats, c'est là le plus important peut-être, c'est qu'il a aussi pacifié les relations avec les médias, notamment les tabloïds anglais qui pendant très longtemps ont fait très très mal aux sélectionneurs, aux sélections anglaises dans leur histoire. Donc il a pas tout fait mal, mais c'est vrai qu'à un moment, il a aussi montré ses limites, des limites assez criantes tactiquement encore. Ils peuvent aller gagner l'Euro, hein. Ils ont le talent pour, il y a aucun doute là-dessus. Pour moi, ce qui manque, c'est une vraie mentalité de vainqueur finalement. Parce que si tu regardes dans cet effectif-là, bien sûr, les joueurs de City viennent de faire le triplé, Foden, Walker, Stones, etc. Mais t'as quand même aussi des leaders comme Kane, comme Bellingham, qui n'ont jamais rien gagné dans leur carrière.
Ouais.
Ou en tout cas pas.
Le dernier match, Julien, je regardais ce Maguire. C'est quand même un point d'interrogation là.
On va pas relancer le débat Maguire maintenant là, parce
aucune,
que là...
aucune réponse là.
Juste pour finir rapidement sur Savia, il partira après l'Euro, c'est quasiment acté maintenant, son contrat finit en décembre. il ira peut-être d'ailleurs chez toi à Old Trafford, Flora, je sais pas si t'es contente ou pas, mais voilà, donc
un moment pour revenir sur ce que disait Marion.
Bah non, je suis désolé, mais je fais le maximum. Hein. Mais pour revenir sur ce que disait Marion tout à l'heure, ils ont eu des sélectionneurs étrangers avant, Sven Goran Eriksson, Fabio Capello, ouais. Bien sûr. Je pense qu'un Graham Potter, par exemple, pour moi, en tout cas, à mon avis, attend le poste. Donc, ils auront des possibilités, soit étrangères, soit anglaises. Mais c'est vrai que je pense que c'est le dernier tournoi pour Southgate. Et vraiment, c'est celui qui, à mon avis, qui doit remporter. Sinon, oui. Il y aura toujours une astérisque sur son temps à la tête de la sélection.
Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous.
Merci.
Demain, dès l'after spécial Drôle de Dame. C'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros. C'est le moment de jouer et d'envoyer coffre par SMS au 732-16. Coffre au 732-16. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour vous inscrire. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous vendredi 29 dans l'émission pour ouvrir le coffre RMC et peut-être remporter la somme de 50 000 euros. 18h40 sur RMC. On revient tout de suite dans l'intégral foot avec Olivier Dalloglio, le coach de l'AS Saint-Etienne.
RMC Intégral Foot.
Flora Messi.
La dernière ligne droite de l'Intégral Foot. Il est 18h42 sur RMC. À 19h, vous avez rendez-vous avec Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet pour Bartoli Time avec des invités de prestige, Florent Manoudou et également les frères Lebrun, Alexis et Félix. Alexis qui vient de remporter les championnats de France devant son frère. On a beaucoup parlé des sélections nationales en cette période de trêve et de matchs amicaux, mais la vie continue aussi dans les clubs, en Ligue 1, mais aussi en Ligue 2. D'ailleurs, on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous le coach de l'AS Saint-Etienne, Olivier Dalloglio. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous.
Coach Courbis aussi est là.
Salut Olivier.
Salut Roland.
Mais
salut
j'ai
Roland.
Vu que tu as pris quand même une bonne année de vacances et puis
oui.
ça n'a pas duré trop quand même. La plaisanterie mise à part, ouais. On pensait quand on pensait à toi qui subissait un petit peu ce que subissent les entraîneurs dans une période où des fois ça va un petit peu moins bien. Mais je trouvais quand même que c'était dommage, que c'était même du gaspillage. Mais par contre, la possibilité aussi, même quand on ne le fait pas exprès, de pouvoir se reposer, c'est pas mal non plus.
Oui, tu as tout à fait raison, c'est clair. Après, bon, c'est vrai qu'au bout de quelques mois, après, on commence à tourner en rond.
Eh ouais.
Donc le repos, oui, ouais, c'est appréciable, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps de faire grand-chose. Mais là, ouais, après, bon, ça me démangeait un petit peu quand même.
Bon, on est au cœur d'une petite coupure là de quelques jours, alors que Saint-Etienne, on le rappelle, est troisième de Ligue 2 et reste sur 6 matchs de suite sans défaite. C'est plutôt confortable pour partir en trêve ou alors au contraire, on aurait voulu poursuivre la bonne dynamique?
Non, sincèrement, je pense qu'on avait vraiment besoin de cette coupure parce que j'avais pas mal de garçons qui un petit peu sur régime et qui avaient des tiraillements. Donc en fait de compte, on attendait plutôt cette semaine là de récup. Qui nous a fait du bien. Cette semaine, on a vu des garçons qui avaient des petits tiraillements, être un peu plus à l'infirmerie. Donc, ça nous permet d'avoir un peu plus de temps. Donc, elle tombait très bien, la trêve. Voilà.
Évidemment, l'objectif pour vous et Saint-Etienne, c'est de remonter en Ligue 1. Il va rester 9 matchs pour ça. Vous êtes à 2 points d'Angers, 2e. L'objectif n'est plus très loin, Olivier, là.
Oui, il faut qu'on continue cette série-là, très positive. On avait besoin de faire une série, de toute façon, pour recoller, parce qu'on était un petit peu loin. Là, maintenant, on a recollé, il n'y a rien de fait. Il n'y a vraiment rien de fait. 9 matchs, c'est beaucoup et pas grand-chose non plus. Ça peut aller très, très, très vite. On a quand même des concurrents qui sont encore devant nous, Auxerre et Angers, puis après la VAC qui est avec nous, et puis pas mal de poursuivants. Donc, c'est très, très serré, et on ne peut pas nous permettre de faire des matchs.
C'est serré, malheureusement, par rapport au début de saison et par rapport aux matchs qui ont eu lieu avant ton arrivée. Mais si on regarde ce qui se passe au niveau des moyennes de points depuis ton arrivée, ben on note quand même que c'est un parcours, non pas de troisième ou de quatrième, mais c'est un parcours de premier. Et si vous continuez à cette allure-là, ben la palisse, il n'aurait pas dit mieux que moi. C'est que vous allez terminer dans les deux premiers. Et en ce qui concerne cet effectif que tu as récupéré, donc avec justement un petit peu, pas seulement les jambes, mais les têtes à l'envers aussi. Donc là, j'ai vu qu'il y avait eu peut-être une ou deux arrivées à la trêve d'hiver qui ont fait du bien, notamment, je crois que c'est Cafaro qui est arrivé, ou il est arrivé...
Cardona.
Oui, Cardona. Donc, Cardona. Et là, au niveau des changements que tu as pu faire, il y a eu des changements en ce qui concerne l'organisation tactique et les habitudes qu'ils avaient prises, ou un petit peu les têtes démoralisées, parce que je vois une certaine solidité, notamment dans les matchs nuls. Un match nul, c'est évident, je sais compter, c'est 2 points de perdu. Mais 0-0, ça démontre aussi une certaine solidité. Et grâce à cette solidité, des fois, ben on se débrouille de faire des séries comme tu es en train de faire.
Oui, tu as tout à fait raison. Une partie, quand je suis arrivé, je suis parti sur cette idée-là, c'est-à-dire de devenir plus solide défensivement. Je sais que les matchs sont, tous les matchs sont difficiles, que des fois il faut savoir ne pas perdre, mais je voulais m'appuyer sur une défense forte, donc la priorité au départ ça a été ça, et puis comme tu le disais après on a changé un petit peu l'état d'esprit. Je voulais beaucoup plus d'intensité à l'entraînement, donc j'en ai imposé beaucoup plus avec mon staff, beaucoup plus de courses, beaucoup plus d'agressivité, ce que les joueurs ont accepté. Et puis, comme tu le soulignais aussi, un mercato d'hiver qui a été plutôt positif. On a fait revenir Ivan Masson défensivement. Cardona qui est arrivé, aime beaucoup aussi, qui nous a été prêté par Osbourg aussi, qui était à Reims, qui est un attaquant important aussi. Donc ça nous a bien, bien renforcé. Puis après, je pense que bien sûr, tu sais, les têtes, après, ça va beaucoup mieux. Dès que tu gagnes un match, tu te sens solide, tu ne prends pas de but. On a un très bon gardien de but. La défense est devenue beaucoup plus solide. Voilà, c'est vraiment imperméable maintenant. Donc, en fait, les têtes vont mieux.
Ouais, puis il y a l'importance mathématique aussi quand tu rencontres des rivaux. Bon, évidemment, une victoire, elle vaut 3 points. Mais une victoire contre Angers, il suffit de voir les dégâts que ça peut faire. Si Angers gagne ce match, ils ont 3 points de plus et vous 3 points de moins, par rapport aux dégâts que ça a pu faire dans les têtes, et pas seulement dans les têtes, dans la vision aussi du classement d'Angers, quand vous les battez, c'est un des tournants pour moi de cette saison.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'était un match à gagner. C'est ce qu'on a fait avec difficulté, mais c'est vrai que quand on est reparti de là-bas, on avait senti qu'on avait passé un cap. On a passé un cap, effectivement.
On est avec Olivier Dalloglio, le coach de l'AS Saint-Etienne, avec nous dans l'intégral foot. Vous avez aussi été recruté, parce que vous savez ce que c'est que de remonter en Ligue 1. Vous l'avez vécu avec Dijon en 2017. Parlez-nous un petit peu de ces émotions justement qu'on ressent quand on arrive à faire remonter un club comme ça dans l'élite.
Ah oui, ce sont des émotions intenses, parce qu'on change la vie d'un club, on change la vie d'une ville, carrément, parfois d'une région. Donc quand on sait l'importance que peut avoir le football à Saint-Etienne, une remontée, c'est magique, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, c'est le message que je fais passer aux joueurs. Moi, j'ai vécu à Dijon, je pense que j'aimerais que les joueurs vivent quelque chose d'intense, qui restera toute leur vie et qui restera dans la vie du club. C'est magnifique. Moi, j'ai vécu une montée en tant que joueur, j'ai vécu une montée en tant qu'entraîneur. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier, parce qu'on sait qu'on change la vie de beaucoup de personnes.
Mais surtout du côté de Saint-Etienne. Je ne dis pas que du côté de Dijon, il n'y a pas une certaine valeur, mais les Verts, ça reste
les Verts.
Le Chaudron, ça reste le Chaudron. Ah, oui. Et arriver en tant qu'entraîneur aussi à accompagner cette équipe, à les faire monter. Sans avoir démarré à zéro à la dernière intersaison, et après sur la lancée, enchaîner en première division, et dans une carrière, c'est extraordinaire.
Oui, c'est magique. Et puis on sait que quand tu rentres, comme tu dis, dans le Chaudron, quand on est arrivé, il y avait 17-18 000 spectateurs, ce qui est énorme, alors qu'il y avait manqué un peu quelques résultats. Aujourd'hui, on savait qu'on gagnait, en gagnant 3 matchs, on remplissait le Chaudron. Donc la dernière fois, on a joué avec 36 000 spectateurs, ça vibre de partout, c'est énorme. Et puis là, moi aussi, j'ai un message à faire passer, c'est qu'on a besoin aussi des supporters. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'il y a toujours des fois des tribunes qui se ferment, mais nous, on ne peut pas se permettre, on a besoin de tous les atouts, chaque détail, c'est un détail. Et le public à Saint-Etienne, c'est un détail énorme. C'est même plus un détail, c'est quelque chose de primordial. Et on a besoin d'avoir cette vibration dans le Chaudron jusqu'à la fin. Voilà, il nous reste 4 matchs à domicile. Il faut que ça soit 4 matchs au taquet, que tout soit plein, quoi, guichet fermé.
Olivier, vous avez parlé rapidement de vos joueurs. J'ai envie de vous entendre un peu plus en longueur justement sur votre effectif, l'effectif que vous avez récupéré en cours de saison. Quels sont vos leaders, vos relais aussi dans le vestiaire?
Ouais, il y a pas mal de leaders. Donc il y a des garçons qui se révèlent aussi. Bon, on connaît Gauthier Larsener qui est le gardien qui est très 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 important. Après on a aussi le capitaine Anthony Briançon. J'ai des garçons comme Mon Conduit qui ont beaucoup d'expérience aussi. Donc des garçons qui commencent aussi à se révéler comme Sissoko aussi, qui quand il est revenu de Lacan nous a amené un leadership aussi assez important. Donc ça fait quand même beaucoup de garçons qui ont pris de l'ampleur dans le vestiaire. Et puis quand je suis arrivé moi aussi, je trouvais qu'il y avait déjà un très bon état d'esprit. Il manquait certainement un peu de leadership, des garçons qui prennent des décisions et qui soit capable d'influencer les autres. On sait que l'importance que ça peut avoir dans un vestiaire, en tout cas.
Dernière question pour vous, Olivier. À votre arrivée en décembre dernier, vous avez signé jusqu'à la fin de la saison avec une année supplémentaire en option. Du coup, s'il y a remonté en Ligue 1, vous continuez l'aventure avec les Verts?
Ah oui. Ben oui, je pense que là, je ne peux pas faire autrement. Non, c'est... pour ma génération, à moi, Saint-Etienne, c'est les premiers émois. Il y a des Coupes d'Europe, donc... On attendait ça avec impatience, on en parlait à l'école, on débriefait aussi déjà dans les cours de récréation. Non, moi j'ai eu le cœur qui battait la chamade à chaque fois que Saint-Etienne jouait. Donc pour moi c'est un honneur d'être à Saint-Etienne, et si on a cette grande chance de pouvoir remonter et j'ai eu la chance de pouvoir continuer avec eux quelques temps, ça sera avec grand plaisir.
Merci beaucoup Olivier.
C'est sûr que c'est un club historique, et je te souhaite justement de réussir ce challenge qui est quand même extraordinaire.
C'est clair, merci Roland.
Merci beaucoup. Allez, salut. Olivier, bonne chance pour la fin de la saison. Merci à vous.
Merci beaucoup.
On s'approche de la fin de l'émission. Je vais remercier coach et Marion d'avoir été avec moi. Merci. On se retrouve dimanche prochain pour le retour de l'Intégral Foot, le retour de la Ligue 1 aussi le week-end prochain.
Je crois même que dans quelques heures, dans 8 jours, il y a Marseille, Paris Saint-Germain.
Et il paraît, effectivement, le dimanche prochain, on a un gros rendez-vous, coach. On
ça
en parlera, évidemment.
Le classico.
Exactement.
Un classical des classicos.
Il a déjà noté tous les rendez-vous, coach.
Il a raison.
Je peux même te dire qu'à 17h, il y a Rennes aussi qui joue et qui n'a pas dit son dernier mot.
Et c'est le match qu'on suivra dans l'Intégral Foot, évidemment, avec vous deux. Merci beaucoup.
À Strasbourg. Avec Julien.
Il est incollable.
Julien Stéphane qui retrouve Strasbourg.
Allez, 18h54 sur AMC. Tout de suite, c'est Bartoli Time avec Jean-Christophe Drouet et Marion Bartoli. Salut Marion.
Alors pas JC Drouet, mais oui, parce qu'il est en vacances.
L'habitude,
tu vois, j'allais le dire.
Ça va Marion, quel est le programme ce soir? T'as des beaux invités, je crois.
De magnifiques invités. On aura les frères Lebrun qui se sont joués, affrontés en finale du championnat de France de tennis de table, bien sûr. Florent Manodou aussi. On va débriefer le match de l'équipe de France d'hier de foot. Bref, un programme absolument complet, les amis.
Et donc, restez bien sur AMC. Marion Bartoli et Benoît Boutron. Donc, c'est dans quelques instants avec Bartoli Time. Bonne soirée sur AMC.